Ce soir, on reçoit Clément Renaud. Voilà, Clément Renaud qui a édité ce livre l'année dernière.
Il y a deux ans.
Voilà, qui est un peu passé sous les radars. Et puis, on se disait, voilà, c'était un peu une des. Il y a un exemplaire de démonstration qui est là. Et puis, voilà, si vous voulez noter la référence, il est là. On va le faire passer dans dans le public. Real time, il y a un petit site internet qui a été envoyé sur la liste du MIG. Et l'idée, c'était un petit peu. On a reçu il y a quelques temps des activistes qui étaient venus nous parler un petit peu de, voilà, des méthodes pour on va dire, passer outre les techniques, en fait, les différentes techniques de censure en Chine. Et donc, c'est un des fils qu'on tisse depuis quelques temps. Et voilà, c'était. Voilà, un des objets, c'était un peu de continuer à poursuivre ce fil. Et puis Clément, c'est un spécialiste renommé. Ce qui fait qu'on va pouvoir. Aujourd'hui, voilà, c'est une séance qui va être consacrée aux mythologies de l'Internet chinois. Les résultats, je vais te laisser t'introduire et puis expliquer. Il y a un texte qui a été envoyé aussi sur la liste. Certains l'ont peut-être lu, j'espère. Sinon, on va revenir dessus avec illustration.
Oui, quelques images.
Voilà. Bonne séance. Et puis,
je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Clément Renaud. Rapidement, moi, j'ai un peu deux activités en ordre général. Je suis développeur, je fais de l'informatique, du développement informatique. Et aussi, j'étais chercheur pendant longtemps. Là, maintenant, je ne travaille plus pour les universités, mais je suis toujours chercheur et un peu artiste aussi. J'ai travaillé notamment, donc le livre là, c'était à l'EPFL, donc l'École Polytechnique à Lausanne, en Suisse. Puis ça, c'est un peu le. Et donc, moi, j'ai vécu une dizaine d'années en Chine. Je travaillais en Chine dans des entreprises comme développeur. J'ai travaillé aussi avec plein de gens. Que ce soit des dissidents, j'ai travaillé dans les médias, j'ai travaillé dans pas mal d'endroits en Chine. Et ça m'a amené à faire des recherches à la base sur tout le. On a ouvert le Hackerspace à Shanghai il y a plus de 10 ans, donc un lieu à Shanghai. Et puis après, de fil en aiguille, ça m'a amené à faire pas mal de recherches sur les makers et tout le mouvement Fab Lab, tout ça en Chine, toute la fabrication en lien avec la partie industrielle de ce truc-là, qui est tout le made in China, donc toute la production industrielle. Voilà, j'avais fait ma thèse à l'époque à Télécom sur les réseaux sociaux en Chine, une cartographie de mèmes, pour vous dire un peu les choses qui m'ont amené à ça. Et donc je connais bien, on va dire, le monde numérique chinois. Et donc là, c'est un peu ce que je me propose de vous montrer. Je suis très content d'être là, merci pour l'invitation, merci d'être là. Ça fait, en fait, le bouquin est sorti, on a fait le lancement à Hong Kong, la semaine d'avant que Wuhan soit mise en confinement. Pour la petite histoire, moi j'ai vécu 6 ans à Wuhan, donc je connais bien la ville. Donc voilà, et en fait depuis ça, donc le livre, c'est pour ça aussi qu'il est un peu passé sous les radars. Et puis depuis ça, moi j'ai pas redonné de conférences. Avant je donnais pas mal j'ai pas retravaillé beaucoup sur les questions numériques en Chine. Depuis 3 ans, c'était difficile avec le contexte. Et en plus je pouvais plus aller en Chine, donc ça me semblait un peu compliqué. Et puis récemment, l'envie m'a repris de m'y remettre un peu. Donc j'avais écrit ce petit texte et j'ai croisé Kevin qui m'a dit « mais viens en parler ». Donc je vais vous présenter ça. C'est un peu brut comme ça, c'est un brouillon. C'est, comment dire, la question numérique en Chine, c'est un peu un énorme serpent de mer qui est assez difficile à prendre. Il y a beaucoup d'ornières, il y a beaucoup d'attendus, il y a un imaginaire assez compliqué. Et donc c'est pour ça que j'avais choisi de prendre l'angle. Au fil des années, j'ai essayé plein d'angles, plein de choses. Et là, je me suis dit, tiens, je vais prendre le côté mythologie. Parce que dans l'imaginaire un peu général du numérique, la Chine, c'est un peu le père fouettard, quoi. C'est un peu le côté dystopique de l'Internet, etc. En tout cas, c'est ce qui vient souvent de premier abord. Donc, on a une approche très, très ancrée là-dessus. Et donc. Donc voilà, et moi ça m'intéressait parce que déjà la partie historique m'intéresse. C'est une présentation quand même assez historique sur l'histoire un peu du numérique en Chine, comment ça a été créé là-bas, et l'importance que ça a, je pense, dans le monde d'aujourd'hui, et la relation entre l'histoire de la Chine, l'histoire politique, l'histoire sociale, l'histoire avec un grand H, et puis ce qui est devenu le numérique aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y a des liens qui ne sont pas vraiment très. Connus, ou en tout cas qui ne sont pas bien faits, je pense, aujourd'hui dans l'esprit des gens. Et donc voilà, moi, ce que je vais vous proposer, le côté mythologie en Chine, pour moi, là, en tout cas, l'approche que je vais prendre, c'est plus essayer de vous montrer des choses qui sont des mythes qui sont importants, des mythes fondateurs un peu, mais dans l'esprit des Chinois, c'est-à-dire comment eux ils perçoivent leur Internet, comment ils perçoivent leur monde numérique. Parce que les mythes, je pourrais vous faire une liste de tous les trucs qu'on a en tête, on va en parler, hein, du Great Firewall, les systèmes de censure, des trucs comme ça, de tous les mythes que nous on a sur la Chine. C'est-à-dire que nous, les choses qui viennent immédiatement quand on dit Internet en Chine, on a une série de trucs qui viennent dans notre tête. Je vais en parler, mais je vais choisir aussi plus des choses un peu différentes qui viennent directement, je pense, dans l'esprit des Chinois quand ils pensent à Internet. Voilà, j'avais pris... j'avais mis une petite citation, « Le mythe est une parole ». Alors, c'est donc de Barthes, parce que voilà, c'est un bouquin hyper connu qui s'appelle « Mythologie » de Barthes. Et... parce qu'en fait, dans l'idée, c'est de dire, en fait, comme toute parole, dès qu'on la dit, dès qu'on l'énonce, elle dit autant, elle dit ce qu'elle dit, mais elle dit aussi beaucoup sur la personne qui l'énonce. Et donc, dans tous les mythes qu'on a en tête, justement, des fois, j'ai l'impression qu'on parle toujours des mêmes trucs sur l'Internet en Chine, et ça, des fois, ça parle surtout de nous-mêmes, de nos propres angoisses, parce que, historiquement, la Chine, y a deux choses. Déjà, la Chine, elle a toujours été investie de plein de... Enfin, c'est un pays mythique, il y a tout un imaginaire complexe. Et au fil de l'histoire, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projections qui sont faites de nos propres angoisses, nos propres désirs sur la Chine. Il y a toute une histoire de ce truc-là, que ce soit avec l'orientalisme, voilà, ou pendant longtemps, pour dire simplement, pendant longtemps, la Chine, on avait l'impression qu'elle était enfermée dans son passé, je veux dire, pendant longtemps, au 19e siècle. On était là, oui, la sagesse infinie, le passé mythique, la Chine, ils sont encore dans le passé, etc. Et puis aujourd'hui, on a l'impression que il y a toute la veine, que ce soit ce qu'on appelle le sino-futurisme, c'est-à-dire les gens qui voient la Chine comme le futur, qui se disent « Ah, oh, c'est le futur, c'est super », ou que ce soit la partie très très dystopique. En fait, au lieu de l'enfermer dans le présent, maintenant la Chine, ils sont uniquement dans le futur. Et on a comme si c'était une espèce de vision statique ou une vision qui était décorrélée de... et qu'ils n'avaient pas d'action dessus, qu'il n'y avait pas d'action, qu'il n'y avait pas d'histoire propre. Et des fois, je trouve ça un peu triste, enfin un peu... Ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de billes pour en parler voilà, de façon calme, sans être tout de suite dans les grands trucs mythologiques. Et l'autre partie, c'est que la Chine elle-même adore se mythologiser, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est-à-dire se présenter comme un énorme truc, un dragon infernal ou je ne sais pas quoi... Elle prête le dos avec plaisir à toutes les grandes histoires, les grands récits qui l'entourent, quoi. Donc historiquement, ça a toujours été un peu comme ça. Et avec le numérique, on retrouve toujours ça. C'est toujours des... Quoi qu'il arrive, c'est grandiloquent, c'est gigantesque, c'est incroyable, etc. Alors que, voilà, il y a une partie où quand on est en Chine, quand on vit en Chine ou quand on est chinois, c'est pas mon cas, mais voilà, il y a plein de choses du quotidien qui font l'Internet, qui sont pas forcément incroyables, mais qui sont le quotidien, qui sont des choses un peu plus... On pourrait croire que c'est un peu désenchanté, mais en fait, au contraire, je pense que c'est ça qui est aussi super intéressant, c'est-à-dire ce qui fait quotidien. Et ça, dans le livre, il y a tout un tas d'exemples. Voilà, d'ailleurs, je vais le faire passer si vous voulez regarder. J'ai mis quelques images justement pour essayer de positionner, enfin de montrer un peu des choses visuellement, quoi, qui est un peu un univers. Voilà. Et comment la présentation est structurée, c'est assez simple. C'est des concepts, des mots en fait chinois. Donc c'est des mots en chinois que je vais expliquer, et c'est une série de mots, donc c'est un peu chronologique, qui commence assez tôt, donc le premier. Et donc à partir de chaque mot, c'est un mythe, une espèce de truc mythique que je vais présenter rapidement. On pourra... voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions, s'il y a des trucs, puis sinon on pourra discuter de tout ça abondamment. Et donc, en plus, la première... donc le premier mot, c'est Jingjitetu, c'est la zone économique spéciale. Okay, donc là, en fait, à la base, je voulais mettre une carte. Puis en cherchant, j'ai vu cette peinture magnifique. Donc c'est une peinture qui a été réalisée il n'y a pas longtemps, hein, pour les 40 ans de la zone économique spéciale. Et donc, ce qu'on voit, alors, on ne voit pas vraiment la carte, mais la carte, en fait, ici, c'est Hong Kong. Et là, au-dessus, c'est Shenzhen. Et là, c'est Canton. Et tout ça, c'est le delta de la rivière des Perles. C'est un immense delta. C'est une région entière, une région de la Chine, du sud de la Chine, qui est collé à Hong Kong. Et en fait, la zone économique spéciale, ça a été l'endroit où, à la fin de la révolution culturelle, après, quand donc le pays était un peu... il avait eu une mauvaise période, et c'était difficile de reprendre. Il y avait beaucoup de choses à reconstruire et tout avait été fermé, donc toutes les universités avaient été fermées. Je parle du point de vue de sciences et technologies. En termes technologiques, il y avait très peu de développement. Toutes les universités tous les universitaires étaient à la campagne en train de labourer ou de laver par terre. Et donc tout le monde. Et donc sur la peinture ici, c'est Deng Xiaoping qui était le président de l'époque, qui a fait la réouverture de la Chine, etc. Vous connaissez peut-être l'histoire. Et l'idée, c'était donc l'économie était l'économie socialiste totale. Enfin, c'était pendant la révolution culturelle, il y a toute une période où
Excuse-moi, la personne qui est debout qui montre.
Et voilà, la personne qui est debout qui montre, c'est un des concepteurs de la zone économique spéciale, et c'est le père de l'actuel président.
Ah, okay. il ressemble
quand même. Bah, ils l'ont fait qu'il ressemble encore plus, parce que c'est le truc des 40 ans, et c'est aujourd'hui c'est lui le président. Mais c'est son père. Donc c'est son père qui s'appelle Xi Jinping, qui est donc le père de Xi Jinping, et qui a été un des architectes de la zone économique spéciale. Et la zone économique spéciale, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait redévelopper technologiquement au niveau du pays, en se disant, voilà, maintenant on va faire revenir les ingénieurs, on va faire revenir les scientifiques, on réouvre les universités, mais ce qu'il faut pour développer, c'est des capitaux. Et le problème, c'est c'était interdit d'investir, c'était interdit surtout les capitaux étrangers. Et donc il y a eu tout un passage où en fait, ils ont dû adapter les stratégie de guérilla maoïste, stratégie urbaine, hein, la recherche d'investissement. Et pour faire ça, ils se sont dit, mais comment on va faire? Et l'idée, c'est que, voilà, en plus, c'était des militaires, essentiellement, beaucoup de militaires, et donc ils ont pris des cartes d'état-major, ils ont fait, voilà, on va faire une zone là. Ils ont dessiné la zone économique spéciale. Je fais un trait schématique, hein, mais pour vous expliquer le truc. Et donc, ils ont dessiné plusieurs zones économiques spéciales, et qui sont des territoires, hein, donc toute la zone de Shenzhen. Il y en a plusieurs en Chine, et ils se sont dit, là-dedans, les étrangers vont pouvoir investir de l'argent. Dans ces endroits-là, ailleurs, ce sera interdit, il n'y aura que des capitaux chinois, mais là, dans ces zones, ici, et en gros, ça a été un buffer, je ne sais pas comment on est français, pour expérimenter avec le capitalisme, et surtout avec l'investissement direct, ce qui est un truc particulier quand on investit dans un pays. Parce que le risque, c'était la disproportion, et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est, par exemple, c'est que voilà, quand on a beaucoup d'argent, on arrive, on achète tout le pays, quoi. On achète des rues, on achète des villes, et que les Chinois, ils voulaient protéger leur pays, ils voulaient pas que le pays soit entièrement racheté, et donc ils ont créé une zone où on pouvait faire ça. Mais donc ça, c'est un peu... je pense que l'ouverture, là-dedans, c'est la fin des années 70. La zone économique spéciale, elle est créée, en 79. Donc c'est les années 80, donc c'est récent. C'est très récent, et du coup, la zone économique spéciale de Shenzhen, c'est devenu, c'est devenu le siège des grosses entreprises du type Huawei, Tencent, c'est devenu, au niveau informatique, numérique, c'est pour ça que je parle de ça aussi, c'est parce que c'est un des centres, c'est aujourd'hui le deuxième centre, en gros, industriel du numérique après la Silicon Valley, quoi. Donc toute la robotique, énormément de choses, on pourra en reparler, mais même sur les technologies aujourd'hui, carbone, panneaux solaires, etc. etc. Et donc c'est une région immense, aujourd'hui il y a, je pense, à peu près 100 millions d'habitants. Il y a trois systèmes légaux, puisqu'il y a Hong Kong, Macao et la Chine continentale. Après il y a trois des plus grands ports du monde, avec Shenzhen, Hong Kong et Canton. Voilà, il y a des énormes villes. Donc c'est une série de villes qui est connue dans une des plus grosses métropoles au monde, qui est quasiment une seule ville. Voilà. Et donc dedans, il y a la zone économique spéciale. Et donc je fais un truc très historique, mais je pense que c'est des bases...
C'est toujours en vigueur.
Alors,
de côté de la frontière, on n'a pas le droit de...
Ah non, pardon. Alors non, tout a changé, parce que en fait, le principe de cette zone économique spéciale, c'était l'expérimentation. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de façon de faire, puisque c'était un truc entièrement nouveau. Ils ont dit, voilà, on va expérimenter. Et le but, c'est que en fait, on expérimente, mais que ça ne contamine pas toute l'économie. Si ça foire, en gros, on ferme la zone et puis on fait autre chose, quoi. Et donc, ils ont dessiné cette zone. Et donc, dedans, il y a eu tout un tas d'expérimentations. Et en fait, Shenzhen, c'est devenu le modèle de la Chine aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a joué le rôle de modèle, je vais en reparler après, mais ça a joué le rôle de modèle dans plein de domaines de la société, et notamment, donc là, ça, le deuxième mot, c'est Ta Gong Mei. Ta Gong, Gong, c'est le travail. Ta Gong Mei, c'est les ouvrières. Parce qu'en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que dans cette zone économique spéciale, toutes les usines se sont implantées, donc vous avez eu énormément d'usines. D'abord beaucoup de textiles, des trucs à très bas coût, hein, textiles, les trucs qui font, je sais pas, les boutons de télécommande, tous les trucs plastiques pourris, tous les trucs d'assemblage, de coudre des jouets, tout ça, c'est des trucs les moins chers dans la gamme de l'industrie manufacturière. Et donc, il y a énormément de gens. C'est, en fait, dans la tête des Chinois, il y a énormément de gens qui étaient... donc, c'était soit rural, soit des gens qui avaient traversé la famine, d'abord, enfin, la guerre en premier, après... ministre, grand bond en avant, enfin tout un tas de choses, mais qui sortaient de la révolution culturelle. Et donc là, il y avait un endroit où, en gros, on pouvait gagner de l'argent. Les gens, ils voyaient la vie aussi à l'étranger, comment ça se passait. On en reparlera, il y avait l'influence de Hong Kong, qui est donc... Shenzhen s'est collé à Hong Kong. D'accord, le métro, il se touche. Maintenant, il y a encore la frontière, mais le projet, c'est qu'ils vont lever la frontière un jour et que ça passera en métro. Donc, c'est collé à Hong Kong. Ils l'ont collé à Hong Kong, puisque Hong Kong, c'était la première ou deuxième plus grosse place financière d'Asie, déjà à l'époque. Et que du coup, ils se sont dit, voilà, il y avait déjà énormément d'usines à Hong Kong. Ils se sont dit, bon, on va le mettre à côté, il y a les capitaux là, c'est facile pour investir. Donc, énormément de Hongkongais et de Taïwanais sont venus en Chine et ont ouvert leurs usines. En fait, ils faisaient, je sais pas, des bracelets de montre ou tout un tas de trucs, des petits trucs à Hong Kong, et ils ont délocalisé leurs usines en Chine, ce qui a permis déjà d'avoir beaucoup plus de place, parce que les usines, ça prend beaucoup de place. Et d'avoir une main-d'œuvre super pas chère de gens qui débarquaient de n'importe où. Et du coup, c'est une photo, vous voyez, qui date de 87, d'un dortoir. J'ai trouvé dans un journal de l'époque. Et donc, c'est des ouvrières. Et énormément de gens sont partis et ont voulu s'installer dans la zone économique spéciale. C'était assez difficile, c'est un truc difficile parce que c'était un peu trié sur le volet, si vous voulez. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient illégaux, qui rentraient dans la zone pour aller travailler, quoi. Donc, les usines, elles cherchaient du monde en pagaille. Voilà, toutes les chaussures, tous les trucs Nike, toutes les affaires. Énormément de choses se passaient dans cette région. Et énormément de femmes qui, dans l'industrie manufacturière, surtout dans la confection, mais aussi dans l'électronique. C'est un métier très féminin, on va dire. Et pour les femmes, en même temps, il y avait aussi un truc où les conditions en Chine, même sous la révolution culturelle, même avec tout le passage communiste, où il y avait quand même beaucoup de femmes, elles ont toujours travaillé, enfin depuis tout ce temps-là, tout le monde travaillait en Chine. Mais il y avait beaucoup encore de mariages arrangés, il y avait beaucoup de nénettes qui étaient dans les villages, qui avaient des vies pas forcément... Et donc il y avait aussi l'idée de partir et de se refaire une vie, d'aller en ville, et de changer de vie, quoi. Donc il y a un peu les deux. Et après, d'arriver dans des conditions de vie qui étaient difficiles, mais l'imaginaire des dortoirs, des usines, etc., il est assez différent de celui-même qu'on peut avoir ici, même si c'est un métier très dur, et tous les Chinois savent la difficulté, les conditions de travail... Voilà, mais il y avait aussi cette idée de changer de vie, de se transformer, de participer aussi à la transformation du pays, puisqu'ils avaient été quand même, c'était toujours super communiste, ils avaient été super nationalistes, ils sont toujours, et donc de participer à cette transformation, de prendre avec sa vie en partant et en allant faire autre chose. Et donc, je dis ça parce que ça fait, c'est un peu loin du numérique, mais c'est... Parce que le Made in China, dans l'univers de l'usine et tout ça, etc., il y a toute cette partie qui fait partie de ça, quoi. Qui est vraiment importante.
Et il y avait plus de liberté, en pratique, pour les gens qui étaient dans ces zones.
Ben, il y avait beaucoup plus d'argent, déjà. Donc, il y a plus de liberté, dans le sens où... il y avait plus de liberté, dans le sens... les gens étaient loin de leur famille. Donc ça crée une certaine liberté quand ta famille, et c'est pas facile en Chine, il n'y avait pas beaucoup de mobilité, tu pouvais pas partir comme ça, tout était même assez contrôlé, et puis ça coûte cher de partir, c'est difficile. Donc c'était une opportunité de partir, donc en ça il y avait un sentiment de liberté pour plein de gens. Et en plus c'était un truc, il y avait un sentiment de liberté, dans toutes les années 80 en Chine je pense, jusqu'à 89, où ça a quand même fait un bon coup près avec Tiananmen, mais c'était un moment de la Chine où voilà, genre ils avaient fait... 50 ans de guerre civile, en gros, entre guillemets, quoi. Enfin, en tout cas, les dernières années de la révolution culturelle et toute la fin où Mao était encore en vie, il y avait plein de manipulations de pouvoir, on ne savait pas trop. Et les gens commençaient à vouloir ressortir. C'est une époque où il y avait beaucoup de musique, il y avait plein de groupes de punk, de rock, pas de punk, mais de rock, de trucs chinois. Il y avait toute l'influence de Hong Kong et d'autres pays, surtout de Hong Kong et un peu de Taïwan aussi, de voir... que les gens ils vivaient autrement, donc il y avait ce côté liberté là, quoi. Et après oui, c'était aussi, il y avait un grand truc, c'était la désorganisation totale, enfin c'était un gros bordel l'État à cette période, et donc il y avait aussi beaucoup de liberté, parce que c'est comme, faut voir Shenzhen, c'était des villages, des tout petits villages, et donc on venait, on construisait, quoi. Donc ils ont fait un plan, ils faisaient des plans directeurs, mais les gens ils venaient, ils construisaient, C'était organisé surtout par l'industrie, mais du coup, se retrouver dans un truc qui est complètement en mouvement, qui est complètement dynamique. Et c'est ce qui s'est passé en Chine jusqu'à très récemment, qui se passe encore dans certaines régions de la Chine. C'est-à-dire que tout est en train de changer. Donc, ça crée un sentiment de liberté qu'on n'a pas ici, parce qu'ici, les choses changent très peu, paradoxalement.
Et quel est le rapport aujourd'hui de la Chine, de ceux qui vivent en Chine en général, par rapport à leurs anciennes traditions telles que taoïsme, confucianisme, quel est le rapport aujourd'hui? Comment ça se passe?
C'est une vaste question qui emmène un peu loin du sujet, mais...
Non?
En fait, ça dépend. Non, pas forcément. En fait, ça dépend. Il y a toute une gamme de traditions. C'est-à-dire, il y a la tradition vraiment de... La tradition de base, je pense, tradition de base, le culte de base de l'Asie, de ce côté de l'Asie, jusqu'au Vietnam, etc., c'est la vénération de la famille, des ancêtres. Donc si vous allez en toute l'Asie du Sud-Est, ou même à Hong Kong, à Taïwan, il y a des hôtels dans beaucoup de familles, et il y en a encore beaucoup dans les zones rurales en Chine, où il y a les portraits, les photos des grands-parents, des arrière-grands-parents, et où tous les jours, on nettoie, on met des pommes, on met de l'encens, etc., parce que le fondamental de... Et c'est le truc de la pensée confucienne, c'est la filiation, les enfants, la famille.
En fait, cet aspect de la culture est encore bien ancré.
Il est ancré. Après, le communisme, ils ont dit, ouais, les religions, c'est non. Donc, c'est pas que c'est non. Aujourd'hui, il y a énormément de religions en Chine. Encore, les gens, ils vont à l'église, ils vont à la mosquée. Il y a plein de mosquées partout. Enfin, il y a plein d'églises partout. Mais par contre, sur les religions vraiment traditionnelles, le confucianisme, le confucianisme, il y a un gros retour en fait en ce moment, mais pendant la révolution culturelle et avant, si vous voulez, ça faisait ce qu'en chinois ils appellent Jiushihui, c'est l'ancienne société. Et donc il y a une réaction de masse contre l'ancienne société qui avait amené à l'empire, enfin qui a été représentée par le dernier empire de Chine et qui a amené ce qu'ils appellent le siècle d'humiliation en Chine, ce qui est tout le 19e siècle, puisque la Chine a été entièrement colonisée. Donc vous avez tous les récits de Pierre Loti, sac du palais d'été, il rentre, il casse tout, il brûle tout. Les Français, les Anglais, ils prennent Hong Kong, les Français, ils prennent Canton, les Allemands, ils prennent Qingdao, voilà. Ils se font les Chinois. Donc après, ils sont entièrement colonisés, il n'y a plus d'État chinois, dans le récit, je vous dis, dans le récit actuel, dans la tête de beaucoup de Chinois, c'est ça. Toute la tradition chinoise, pour eux, elle a amené à ça. Et donc, le communisme qu'ils ont amené, c'est la fin de cette tradition. C'est-à-dire de dire, cette tradition, en fait... En tout cas, une rupture gigantesque avec tout ce qu'avait été la tradition chinoise. Mais après, encore une fois, on a l'impression que, par exemple, le taoïsme, c'est plus de l'ordre de... On a l'impression que c'est une chose. En fait, des philosophes taoïstes, sur 4000 ans, il y en a eu énormément. Et donc, il y a eu énormément d'évolutions. Et confucianisme, c'est pareil, il y a énormément d'écoles, énormément de choses. Et donc, chaque dynastie a été très différente, chaque empereur était différent. Et il y a le bouddhisme qui est arrivé... assez tard, milliers d'années à peu près, un peu moins, et donc qu'a aussi l'empereur s'est converti. Enfin, il y a eu tout un tas de... C'est encore une fois immensément varié et divers. C'est pas du tout... Quand je disais tout à l'heure, on a l'image d'une Chine éternelle, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on a l'image, on se dit, ouais, il y avait le taoïsme qui est une sorte de permanence, mais en fait, c'était un dialogue qui serait l'équivalent de la... Je sais pas trop, c'est des idées fondamentales qui commenceraient à Aristote et qui continuent aujourd'hui. Donc ça fait... tout un panel d'approches différentes, de philosophies différentes, et de philosophies politiques, sociales, d'applications, etc. Donc et aujourd'hui, il y a un retour un peu à ça, au confucianisme surtout, parce que c'est un truc hyper structuré. C'est basé sur la structure de la société, la filiation. Le principe, c'est l'ordre, c'est-à-dire qu'il faut que les choses ne soient pas le chaos, quoi. C'est le principe de base.
C'est marrant ce que tu as dit, parce que... Le 19e siècle, la disparition, enfin le fait que la Chine soit passée sous le de l'Occident, en fait, une colonisation, et en fait qu'ils reportent la faute à eux-mêmes, à leur culture, et non pas aux colonisants.
Ah oui, oui.
C'est étonnant, parce qu'en fait, la plupart des autres pays font l'inverse, en fait, ils disent, bah non, c'est ta faute, c'est pas la mienne.
Oui, oui, bah c'est un peu le... Mais c'est vrai que c'est... C'est une bonne réflexion. Si, c'est sûr. Pour les Chinois, c'est toujours un peu comme ça. C'est-à-dire, s'il y a une défaite, c'est un peu la faute de celui qui a perdu. Parce que, en tout cas, ils pensent que... Enfin, parce qu'après, en plus, ça a été... dans le récit, c'est comme ça. C'est-à-dire que les autres étaient plus forts parce que la Chine a autorisé... Ils ont arrêté Le pays était, pour eux, c'était le délitement et justement des élites intellectuelles, des élites politiques qui ont fait qu'il n'y avait plus de progrès social, qu'il n'y avait plus d'évolution et que du coup, ils ont... Parce que dans leur histoire, il y a tout un tas de moments voilà, où...
Bon, c'est vrai que ça va à l'encontre d'un discours nationaliste, souvent qui entretient. Beaucoup de pays qui sont passés par la colonisation en fait, entretiennent le discours nationaliste, qui ont tendance à entretenir l'aide de l'autre plutôt que soi-même.
Ouais, non, je pense que pour les Chinois, c'est comme ça. En plus, voilà, il y a le côté. Ouais, c'est. Mais après, c'est aussi un discours de mobilisation, c'est-à-dire, c'est de dire, allez, on y va. Mais c'est le truc qui est à la fois. Voilà, qui est aussi un truc qui est instrumentalisé pour dire. C'est de votre faute, c'est de notre faute, il faut y aller, il faut qu'on fasse le truc. Et donc, qui revient aussi après, du coup, à un discours de compétition, à dire, pas forcément de leur faute, mais il faut qu'on soit plus fort qu'eux, quoi. Donc, qui est aussi un truc de confrontation.
C'est nationaliste.
Oui, de la même façon. Ouais, enfin, d'une façon différente.
En Europe, on a fait l'inverse. On a tout reporté sur l'autre, plutôt que nous-mêmes. La France et l'Allemagne, on s'est toujours dit que c'était à cause de l'autre et pas nous.
Oui, possiblement. Après, il y a une grosse partie qui, bien sûr, critique le...
Ça dépend des Maginot, tout ça, les théories militaires.
Oui. Mais en Chine, après, il y a aussi... encore une fois, c'est immensément varié. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui critiquent l'Occident depuis toujours. Enfin, je veux dire, Mao, c'est assez clair et net.
Du coup, la fin de la révolution culturelle, la bande des quatre...
Dans le discours officiel, depuis Deng Xiaoping, depuis la fondation de ça, ça a été réglé dans les années 80. Ils ont dit que Mao, c'est 70% bien, 30% mal. Donc il y a les chiffres, hein, c'est ce chiffre-là. C'est dans la doctrine aujourd'hui, c'est comme ça. Et donc voilà, et en gros, c'est ça. Donc il est révéré comme le fondateur de la Chine aujourd'hui, ça c'est sûr. Et il est adoré par tout un paquet de gens. Hein. Mais après, il considère qu'il a fait tout un tas d'erreurs. Hein. Politique, tout un tas d'excès, d'abus qui sont dénoncés aujourd'hui, mais qui ont été déjà depuis longtemps. Mais c'est
la création de la zone, c'est le moment des procès en même temps.
Voilà, c'est en même temps. En même temps que les procès de la bande des quatre à la fin de la révolution culturelle. C'est vraiment la partie. Parce que avant, il y avait tout. En fait, ce qui se passe, c'est quand c'est 78, la mort de Mao. Enfin, c'est juste avant.
La bande des quatre, c'est le procès. C'est
une fois que Mao est mort.
79, 80, 80.
C'est allé, quoi. Maintenant, on fait autre chose, quoi. Et donc tous les trucs qui n'avaient pas marché, on ne les fait plus, et on fait d'autres trucs, mais on ne sait pas ce que c'est. Et donc, politiquement, il y a un voyage très célèbre, Deng Xiaoping, donc, qui était quand même le mec qui a été purgé genre 5 fois, il a été... Et donc il est ressorti, et qui a fait... donc c'est sous lui, qui est sous son... à l'époque, il est président, enfin il n'est pas président, mais il est premier secrétaire du parti. Et donc la zone économique spéciale est créée. Et après, il retourne dans la zone économique spéciale, il y a tout un tas de chaos là-bas, c'est le chaos la zone économique, il y a l'argent. Et il revient, il dit ok, c'est bien, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ça, c'est le chemin, maintenant c'est l'expérimentation. Et donc ça va rester, et ça reste dans les politiques publiques aujourd'hui. Les politiques publiques chinoises, elles sont toujours sur la base de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il y a un plan quinquennal, ils disent on va faire ça, ils prennent une zone, ils font ça. Par exemple, le Smart City, ils font 150 Smart City. Ils font 5 ans, 10 ans, ils regardent, il y a tous les universitaires qui font des rapports, des notes, etc. Ils évaluent et après, ils disent voilà, en fait, le mieux, c'est ça, ça, ça. Dans cette région, il faut faire ci, dans celle-là, il faut faire ça. Et c'est un truc qui reste dans la culture politique aujourd'hui. Et donc. Donc je rebondis là-dessus, ça c'est le... Du coup, à la même époque, justement, de la zone économique spéciale, un peu après, ça s'appelle Xiahai, ça veut dire vers le bas, voilà, sauter dans la mer. En fait, sauter dans la mer, c'était l'expression des gens, justement, qui allaient entreprendre dans la zone économique spéciale. Parce qu'il y avait... Donc je parlais des gens, des femmes notamment, qui allaient beaucoup dans les usines, et il y avait beaucoup de femmes aussi qui décidaient de faire Xiahai, c'est-à-dire on se lance, en gros on va là-bas et on se jette à l'eau, voilà, on dit en français, hein. Mais là c'est dans la mer. Mais du coup c'est l'idée. Et là j'ai mis ça, c'est là, un peu le look de l'époque, quoi, aussi pour vous montrer l'influence fondamentale des... Donc de cette époque des années 80 de Hong Kong. Enfin, même les styles, les trucs. À l'époque, il y a une immense chaîne de télé qui fait des séries télé qui s'appelle TVB, qui est une grosse chaîne de télé hongkongaise qui diffuse dans tout Hong Kong. Et donc, c'est l'époque où, vous savez, ils ont des énormes téléphones. Hong Kong avec la Gomina, le téléphone. C'est déjà un statut, un truc de statut social. Et voilà, et c'est l'entrepreneur truc. Et donc, c'est l'époque où toutes les boîtes se montent. C'est l'époque. Et ce qui se passe notamment, c'est qu'il y a énormément de. Comme dans le monde entier, on commence à se dire, mais en fait, il y a cet endroit où il y a des travailleurs à que dalle, quoi. Les mecs, ils arrivent, ils bossent jour et nuit, ils ont été dressés. Enfin, entre guillemets, si je peux me permettre. Mais. Oui. Et donc, par exemple, la fondation de Huawei, c'est à cette époque-là. Il y a tout un tas de... ils font à la base des commutateurs, enfin, comme un peu des routeurs de l'époque, quoi, pour la téléphonie, téléphonie terrestre. Et donc, il y a tout un tas de boîtes qui se montent. Huawei, ça, c'est une boîte, ils l'ont monté, je ne sais plus, il y a peut-être 2-3 000 euros de capital. Et donc, ils ont enregistré à Shenzhen. Zheng Zhengfei, donc le fondateur de Huawei, par exemple, c'est un mec qui vient du Yunnan, donc de la campagne dans les montagnes à côté de la Birmanie. Voilà, son père est instituteur, voilà, il arrive à la zone des micros. Et donc, il voit le truc, il y a énormément de boîtes. À l'époque, il y a des milliers et des milliers de boîtes qui se montent pour faire ça, parce que toutes les boîtes achètent ce genre de truc, c'est-à-dire des commutateurs pas chers, qui sont assemblés vite fait. Eux, ils font pas les... Et la différence de Huawei, c'est que très rapidement, ils se rendent compte qu'en fait, il ne faut pas acheter les licences, mais qu'il faut redévelopper les trucs. Et donc, ils montent des espèces de petits centres où ils démontent tout, ils réapprennent à faire les trucs, ils se forment sur le tas, puisque en même temps, il n'y a pas d'ingénieurs, puisque toutes les universités, elles sont fermées depuis 10 ans. Donc, il y a très, très peu d'ingénieurs. Donc là, ils ont réouvert il y a 10 ans, mais la formation, ça reste encore... Il n'y a pas de vétérans de l'industrie. Et donc, c'est que des technos allemandes, françaises, CGTL, j'en sais rien. Et donc, Huawei, ça se monte comme ça, et notamment, un des choses aussi super célèbre de cette époque, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Terry Go, qui est un Taïwanais, qui était un ouvrier qui travaillait dans la banlieue de Taïwan et qui faisait des boutons, justement, vous savez, fondre du plastique pour faire des boutons, des usines qui font ça, pour les télécommandes, tous les trucs un peu électroniques, voilà, des années 80-90. Et donc le gars, il fait ça à un moment. Il monte sa boîte qui s'appelle Honhai Electronics et donc il commence à avoir des grosses commandes, il y a des commandes et il tombe sur une énorme commande qui est le lancement de la Atari, la première console Atari. Et donc le type est taïwanais et pour pouvoir répondre à cette commande, il va à Shenzhen et il fait « c'est là que je vais faire cette commande » et il monte une usine qui est l'usine Foxconn. Et qui est aujourd'hui devenue Foxconn, qui est devenue la plus grosse usine du monde, en tout cas à Shenzhen pendant longtemps ça l'était. Pas loin en tout cas en termes de personnes, puisqu'il y avait 300 000 employés, je pense, à un moment. Je ne sais pas combien c'est aujourd'hui. Il y a trois usines Foxconn aujourd'hui en Chine, une à Shenzhen, une dans le Henan, une dans le Sichuan. Donc une qui fait les iPads, une qui fait les iPhones, une qui fait les iMac. Et puis aussi tous les Samsung, tous les trucs qui font l'assemblage. Et donc c'est comme ça, donc c'est de cette époque la fondation de ce truc. Et donc, Terry Go, par exemple, le fondateur de Foxconn, c'est un mec qui a fait son service militaire à Taïwan. Et en fait, il y a énormément de Taïwanais qui sont dans son cas, qui viennent. Donc, il y a énormément de Taïwanais qui arrivent en Chine et qui voient le truc. Et l'avantage des Taïwanais et des Hongkongais, c'est qu'ils parlent la langue. Donc, et c'est pas comme si vous arrivez de France, vous arrivez à l'époque, il faut trouver des gens, quoi. Donc, eux, ils se mettent soit en intermédiaire, soit ils créent leur propre boîte. Là, en l'occurrence, ils travaillent pour Atari ou pour toutes les boîtes de l'époque, quoi. Et donc, en fait, les Taïwanais, ils ont accès directement, comme les Hongkongais, mais encore plus, parce que Hong Kong, c'est quand même c'est encore britannique, et Taïwan, c'est le Made in Taiwan, qui est le résultat direct de l'investissement des États-Unis à Taïwan, dans le cadre du programme anticommuniste, puisque le gouvernement chinois qui est à Taïwan, qui est encore aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui Taïwan, la République de Chine, opposé à la République populaire de Chine, qui est la Chine continentale, c'est ce qu'on appelle le lobby taïwanais, c'est le plus gros financeur, les financeurs du régime chinois d'avant Mao. Donc vous avez des énormes banquiers, tous les grands capitalistes de la Chine avant la Chine communiste, qui sont partis à Taïwan. Et donc, énormément de capitaux sont là, et c'est des gens qui sont installés aux États-Unis. Et comme les bases militaires américaines, c'est un protectorat américain, littéralement, Taïwan, tous les capitaux américains, ils arrivent par Taïwan, en Chine, et dans la zone économique spéciale. Donc, vous avez énormément d'usines qui sont fondées par des Taïwanais, avec des capitaux américains, en Chine, via Taïwan, via des Taïwanais.
Foxconn, c'est Atari ?
Non, je veux dire que... Non, non.
C'est grâce à Atari que...
Que l'usine a été créée. Après, c'est... On peut dire que c'est...
Un beau mythe sur Atari, quoi.
Ouais. Après, l'usine, voilà, il y a de la demande. Si vous voulez, c'est ça que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on ne fait pas le lien entre... En fait, il y a un lien direct pour moi dans ma tête, parce que en regardant... Entre l'urbanisation de la Chine, à l'échelle générale... Là, je parle juste de la zone économique spéciale, mais après, le fait que la Chine se soit urbanisée, que la Chine ait ce moment historique-là... Et le fait que le numérique se soit devenu ce que c'est devenu, dans le sens que, même le fait que juste que ces objets aient pu être produits. Je ne pense pas qu'il y ait un autre pays dans le monde, un autre moment historique qui aurait permis ça, que le numérique soit produit à une telle échelle. S'il y avait une telle demande, il y avait une telle volonté de produire, de s'enrichir, toutes ces choses-là, c'est, je pense, assez... Enfin, il y a un truc que moi, j'essaie de dénouer, si vous voulez, qui m'intéresse, un fil historique, et je pense qu'il donne... voilà, enfin, on comprend aussi les liens qui se font un peu différemment... par rapport à ce qu'on connaît de... Donc, j'en étais là... Voilà, et là c'est l'autre mot que vous connaissez peut-être, c'est Shanzhai. Shanzhai, c'est donc le village de brigands. Et donc Shanzhai qui a donné son nom, on a fait tout un projet qui est dans le livre avec les Disnovations sur les téléphones Shanzhai. Shanzhai, si vous voulez, mais là j'ai pris le sens original. Plutôt que de prendre le sens qu'on connaît aujourd'hui en design, si vous voulez, le sens qu'on connaît en design, c'est ces objets un peu bizarres, un peu contrefaits, un peu... Et le sens original, c'est le village de brigands dans la montagne, qui est un truc hyper... Vous avez des livres qui sont des trucs... les contes les plus connus en Chine traitent de ça, des mecs dans la montagne, des groupes de brigands. Et l'idée, c'est que si vous voulez, en Chine, donc vous aviez toute la zone économique spéciale, c'est une région montagneuse. Et vous avez toute la zone économique spéciale avec les grosses usines, etc. Donc les gros trucs qui arrivent, les gros coréens, par exemple, tout le centre, il y avait des usines coréennes gigantesques, en plein centre de Shenzhen, qui ont été rasées aujourd'hui, mais bon, voilà, énormément de capitaux qui arrivent soit de Corée, donc Corée du Sud, pareil, protectorat américain, soit de Taïwan, etc. Et après, dans la montagne, vous avez tout un tas de petites usines qui commencent à se monter, avec des mecs qui font des trucs cachés dans la forêt, littéralement dans la montagne. Quoi. Et donc, ils font des trucs de qualité souvent médiocre, parce qu'ils n'ont pas de formation, c'est un groupe de fermiers qui arrive. Les mecs, ils se disent, bon, bah, ça n'a pas l'air si compliqué de faire une télécommande. Alors, ils font le truc, alors après, la télécommande, il y a des problèmes, tout ça. Mais parce que, voilà. Mais du coup, et dans l'imaginaire, donc les Chinois, je pense que c'est un truc qui vient d'un journaliste, je ne sais plus exactement quand ça vient. Ça c'est Shanzhai. Alors, ça vient de Shanzhai, ça vient des montagnes, ça vient des villages de brigands là-haut, quoi. Ça ne vient pas des usines, vraiment. Et donc, il y a tout ce truc qui se développe aussi de plein de petites usines de fabrication qui ne sont pas ces grosses usines avec ces grosses commandes, mais qui sont plus des types qui essayent de faire des produits qui ressemblent, ou qui sont identiques, ou qui sont un peu mieux, ou qui sont un peu différents, et avec donc énormément de gens qui apprennent, et ça crée tout un tissu industriel hyper important dans toute la région. Et donc voilà, et donc l'étymologie, enfin la racine historique de ce truc-là, c'est ça. C'est donc,
une créativité assez délirante que tu vas dans les magasins de Belleville, de la techno, où ils ont une imagination incroyable technologique, souvent foireuse, mais avec des idées de délire, de mélange qui sont considérés.
Alors en fait.
L'assemblage électronique en disant mais putain, mais tu penses à ça. Et en fait, ça marche, oui. Alors ça marche ou pas, mais c'est super délire.
Après le. En fait, le truc, bon, aujourd'hui, là c'est un peu un faux dans le temps. On parle aujourd'hui récemment, si vous voulez, tout le truc Shanzhai. Le truc, c'est que c'est un marché hyper, hyper. C'est des marges qui sont hyper basses. C'est hyper difficile de se différencier sur un selfie stick. Et genre, selfie stick, moi j'avais fait une étude là-dessus, J'avais acheté plein de selfie sticks, je les avais démontés et tout, j'avais fait un article là-dedans qui est dans une revue qui s'appelait Technique et Culture à l'époque, un truc d'anthropologie. Si vous voulez, le truc, c'est que pour se différencier sur un selfie stick, c'est pas facile. Donc les mecs, ils font bon. Donc il y a deux solutions, soit on baisse les coûts sur les produits, donc tu trouves, au lieu d'avoir un truc Bluetooth que tu achètes chez le fabricant, tu le rachètes à un mec qui démonte des trucs Bluetooth qui viennent de je sais pas quoi, d'aspirateurs à casser. Donc ça c'est la première chose. Après sinon, il faut se différencier au niveau du produit lui-même. Donc il faut rajouter une petite feature, un petit truc, donc un poisson qui nage dans le tube. Un truc qui fait que les gens quand ils vont le voir, ils vont faire ça et puis ils vont payer. Quoi.
Ça, ouais.
Et donc, et en plus il y a un truc... qui est un truc de temps, c'est-à-dire c'est des trucs de volume. C'est des conditions de travail qui sont terribles, qui sont inimaginables en termes de... je crois que je l'avais mis dans le texte. Moi, il y a un mec qui m'a dit, le truc pour nous, un fabricant, un mec qui m'a dit, moi, tu vois, pour moi, deadline, ça veut dire que je suis dead. et rigoler, voilà. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'eux, ils misent tout sur un truc, et il faut que ça marche, ils arrivent, parce que la baisse de valeur de ce truc, au moment où ça sort, il y a le stock, je sais pas, 20 000 de trucs, et le stock, en 15 jours, il vaut zéro. Parce que, et après, tu le vends au refurb, les mecs, ils le redémontent et ils refont autre chose avec. Et donc, il faut que tout vous soit vendu direct. Donc, ils sont à se différencier sur des... Et il y a 10 000 personnes qui font ça, quoi. Donc, il faut, dans la même journée. Donc, il faut se différencier, ça va super vite. Et donc, ils sont toujours à rusher avec les deadlines. Et un type qui a aujourd'hui une boîte, qui est une boîte gigantesque, qui fait énormément de... qui fait une des plus grosses boîtes de design, donc ils ont... des milliers de designers, je pense, qui conçoivent des frigos et tout un tas de trucs. Maintenant, tout est... Ils ont des designs in-house in Shenzhen. C'est-à-dire que, je sais pas, Whirlpool ou j'en sais rien, ils vont même plus, il n'y a même plus de designers en Europe ou dans les boîtes, ils font le design directement à Shenzhen. Parce qu'il n'y a qu'eux qui connaissent les pièces, par exemple. Quelles sont les pièces Parce qu'en fait, pour concevoir un selfie stick comme ça, il y a ton cousin qui te dit « Ah, mais moi, j'ai des poignées en plastique, ou moi, je peux te faire du colorant vert fluo parce que je connais Jean-Mi et lui, il fait ça. » Donc, il y a plein, tout le monde connaît les usines. Et comme c'est des gens qui viennent des régions autour, il y a beaucoup de gens, notamment de Chaoshan, qui est une région à côté, ils parlent tous un même dialecte. Ils viennent, donc, les usines, souvent, les usines Shenzhen, c'est un village, en vrai. Et donc, dedans, c'est tous des cousins, des gens qui se connaissent, donc qui travaillent avec l'autre cousin qui habite là-bas. Et donc, ce type qui a maintenant cette énorme boîte, je vous raconte tout le truc parce que c'est quand même assez marrant. J'arrive donc pour le voir, et puis très sympa et tout. Déjà, dans son bureau, il y avait un moteur de bagnole entièrement démonté. Donc, parce que le mec, il me dit « Ouais, moi, j'achète des trucs, je les démonte. » Parce qu'il a toujours fait ça. Donc, il avait démonté tout le moteur, il regardait. Et à côté, il y avait une lampe démontée. Et il me dit « Regarde cette lampe. » Il me dit « Ça, je l'ai fait venir d'Italie, c'est une made in Italy. » Il me montre, il me dit « Mais ça, c'est merdique. » Il me dit « Moi, je fais 100 fois mieux et tout. » Bref, c'était pour la petite histoire, mais ça m'avait fait rire. Et il me racontait que lui, justement, il voyait un client coréen qui leur disait « Ouais, il faut un nouveau modèle de téléphone. » Donc il disait « Ok. » De toute façon, il disait « Oui. » Il dit « Oui, ok, on va le faire. » Et donc, il fait le modèle et donc il s'enferme dans genre dans son usine de fabrication, qui n'est pas un grand truc, hein, parce que c'est une très grande usine. Et voilà, jour et nuit, il fait 40 degrés, il fait des clopes avec des ventilos et puis ils font le truc, quoi. Et il ramène un prototype et il me disait « Le truc, en fait, c'est qu'on avait moulé la coque plastique, on la moule à la fin, la coque qui va au-dessus du téléphone. Donc il l'avait moulée le dernier soir et elle n'était pas sèche. Et il m'a dit, on a été au rendez-vous, moi, mon pote, il conduisait à fond pour voir le client, et moi, je tenais le téléphone pour qu'il sèche. Pour vous dire la vitesse et la façon. Il est arrivé au rendez-vous, il a fait, voilà le modèle. Les mecs, ils ont fait ça, ok, achète, bam. Et donc ils ont fait, ok, ils ont lancé la production, ils en ont fait je sais pas combien, et ils ont filé aux Coréens, et next. Et tous les jours, ils font ça. Et donc, enfin, c'était une époque où, voilà, l'électronique, enfin, je sais pas comment dire, c'est une espèce d'univers où c'est... Ouais, qui est quand même assez impressionnant. Et du coup, tout le côté créatif, c'est aussi un... On peut se dire ils sont super créatifs, mais c'est pas genre... On va faire un design... C'est genre, qu'est-ce qu'on fait Tiens, il y a ça, on va le mettre avec ça. Parce qu'il y a les pièces qui sont là. Donc, c'est pour ça que vous retrouvez... c'est ce qu'on a fait avec les téléphones. Un téléphone avec un rasoir, un mec, ou je sais pas quoi. Ou des téléphones avec des énormes enceintes. Ils se disent, mais ouais, les mecs sur les chantiers, ils ont avec leur téléphone, mais ils entendent rien, donc... Sont enceintes, elles collaient derrière, ouais, ça permet de les vendre.
J'avais vu en Asie un téléphone portable qui faisait rasoir.
Ouais. Ouais, bah on a fait toute une collection. Donc, un des projets qu'on a fait avec Maria et Disinnovation, on a collecté, on a une centaine, je pense, de téléphones divers et variés, justement, de téléphones Shenzhen, entre guillemets, avec des trucs qui sont tous plus incroyables les uns que les autres. Voilà, qui est un des plus récents. Le premier que j'avais acheté, moi, qui a lancé la collection, c'est un truc qui venait du Ghana. C'est des téléphones de brousse, c'est des trucs qui sont gigantesques. Et derrière le téléphone, il y a un port USB pour brancher un truc dessus. C'est un battery pack, la batterie est énorme. Et c'est livré avec une lampe qu'on branche dessus, parce qu'il y a tout le temps des coupures de courant. Donc il y a une énorme antenne. C'est vraiment un téléphone. Mais quand on est habitué au form factor, enfin, au carré noir plat avec une vitre, qu'on voit un téléphone comme ça, on fait ah ouais. Parce que ça, c'est. Et ça, c'est des choses plus récentes. Mais depuis longtemps, il y a cet effet. Donc c'était le téléphone. Et tout le marché du téléphone qui a commodifié le téléphone portable, par exemple, c'est... En fait, il y a une boîte, qui est une boîte taïwanaise-suédoise, qui s'appelle Mediatek, qui a fait des kits. En fait, des kits, c'est des petits kits où dedans, il y a un PCB, enfin, il y a un composant, une board avec dessus, genre, un Bluetooth, un truc. Et il suffit juste de mettre un clavier, de mettre une boîte en plastique, et on peut téléphoner. Il faut mettre un micro et un haut-parleur, mais voilà, on soude et... une boîte et ça fait un téléphone. Et ils vendaient des kits comme ça, et eux, ils sont enrichis, enfin, c'est des boîtes qui sont gigantesques, mais du coup, ça a permis de développer tout un écosystème et tout un monde de téléphones portables. Et les boîtes comme Huawei, etc., tout un tas de boîtes chinoises, ils viennent de cette origine-là, même si maintenant elles sont transformées, mais c'est l'ADN de ces boîtes.
Voilà. On est un peu loin du mythe des côté américain des créateurs dans leur garage.
Ouais, voilà, ouais.
En train de faire leur petit truc.
Mais exactement, je crois que je pense que c'est la phrase que j'avais mis au début du truc. Je disais, pour moi, si le lieu numéro un de la mythologie numérique, pour moi, si le lieu numéro un, c'est le garage californien, le lieu numéro deux, c'est un dortoir d'usine chinoise. Y a pas, c'est les deux lieux fondamentaux du monde numérique. Et après, mais le truc, c'est que le dortoir d'usine, on ne s'est pas considéré comme un lieu où il s'est passé quelque chose.
Ouais, et puis, mais... le garage californien, on peut aussi en mettre en
compte. Non, mais, évidemment. Mais justement. Ah oui, oui. Ça, c'est bien sûr. Non, mais en plus, il y a plein de passerelles. Hein. Il y a plein de passerelles, mais. Voilà. Je ne sais pas qui est arrivé parce que je parle pas, mais. Bon, ça, je vous l'ai mis quand même, mais c'était un peu pareil, c'est le mot, on peut en passer assez vite. Honsu Gongcheng, c'est les ingénieurs rouges. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que sous Jiang Zemin, après Deng Xiaoping, après la fondation des années, il y a les années 90, et donc il y a Jiang Zemin, qui est donc le président de l'époque, le président après Deng Xiaoping, et qui est nommé, c'est le 14e Politburo, et dans ce bureau, enfin à partir de ce moment-là, dedans, c'est tous des ingénieurs. Tous les gens, tous les politiques du top niveau de la Chine, mais tout le monde, ils sont tous ingénieurs. Et donc, Jiang Zemin, qui était président, il est ingénieur électronique, donc de télécommunication. Donc les types, ils voient le truc, quoi. Ils font, non mais ça, c'est ça, c'est le numérique, c'est ça. Donc là, j'ai mis la photo, parce que c'est ça, en Chine, il y a toute une culture, c'est comme avec les soviétiques, d'analyser la première page du journal et de dire, ah oui. Ah, vous savez, il y a des Tumblr même de Kim Jong-il qui regardent des trucs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais...
Les ingénieurs, ils sont chinois ou ils sont d'origine étrangère?
Ils sont chinois. Ah, parce que, si vous voulez, entre les années 80 et 90, il y a une génération qui a été formée. Lui est formé à Jiaotong, et donc il a été professeur à l'université de Jiaotong à Shanghai. Jiaotong, c'est l'université qui a des plus grosses communautés Linux au monde, qui est un des centres de Linux en Chine. Et c'est des universités technologiques qui sont importantes. Et lui, donc c'est des types qui sont ingénieurs. Donc on les a appelés les ingénieurs rouges, c'est parce que, en fait, donc, pour vous faire toute la chronologie, les années 80, c'est genre open bar, enfin un peu le chaos. Voilà, tout le monde s'ouvre. Même, je pense, c'est une libération sexuelle en Chine, c'est le truc. Les étudiants, voilà, et 89, ça fait ça. Parce qu'il y a, ce qu'on appelle les événements Tiananmen, mais dans toute la Chine, les gens sortent, à la fin des années 80, c'est genre, voilà, maintenant, ils demandent ce qu'ils appellent la cinquième modernisation, qui est en gros la liberté d'expression, la démocratie. Et du coup, Deng Xiaoping, qui est le président d'avant, qui est donc un militaire maoïste qui commence à être bien bien âgé, qui doit avoir dans les 80 ans, et on voit les chars. Donc là, ça fait bim. Et donc après, la génération qui arrive après, c'est maintenant l'idéologie, après la révolution culturelle. Ils sont là, l'idéologie, c'est fini maintenant. Les ingénieurs, maintenant, ont construit le pays, c'est construction, infrastructure. Et donc tous les grands projets d'infrastructure datent de cette époque. Et à l'époque, le grand projet d'infrastructure aux États-Unis, un des grands projets, mais un des plus gros, c'est le Information Highways d'Al Gore. Qui est donc dans les années 90, donc toutes les autoroutes de l'information. Et donc, Jiang Zemin, son fils, Jiang Minhang, qui a été à la Silicon Valley pendant pas mal de temps, ils ont envoyé leurs enfants voir ce qui se passait. Il revient et dit, voilà, on va faire le grand projet en Chine, et ça va s'appeler les Golden Project, qui sera, en gros, puisque là, ils sont super influencés par les futuristes américains, Hoffler, enfin, des types comme ça, et ils regardent ça et ils disent, oui, le projet maintenant, c'est donc la numérisation. Et donc, la numérisation de l'État, qui va leur permettre la numérisation du Parti communiste lui-même, de tout l'administration chinoise, parce que le pays est tellement grand, c'est plus grand que l'Europe, quoi. Donc pour voir ce qui se passe là ou là, donc les douanes, parce qu'il commence à y avoir tous les investissements, donc toute la numérisation du pays. Et donc, un des projets qui s'appelle... parce que c'est les Golden Project, donc vous avez Golden Sea, Golden Customs, ce Golden machin, Golden Bank, etc. Et il y a un projet qui s'appelle Golden Shield, qui est le projet qui est à la base censé faire qui est tourné sur la cybersécurité de l'État à l'époque, de protéger les infrastructures, etc. Le projet à la base, c'est un truc tentaculaire pour regarder ce que font les gens, etc. Bon, une espèce de truc qui. Voilà, ça ne marche pas du tout. Comme on verra après, mais comme beaucoup de ces grands projets chinois, ça ne marche pas. Et il nomme ce type-là, qui est un professeur d'université à l'université de Harbin, qui crée le Great Firewall, de ce qu'on appelait le sous-système de ceinture qui a été super connu. Fan Bingxin, il s'appelle. Et donc, il est dans son bureau à Harbin. Et donc, c'est lui qui devient. C'est un mec qui fait de la cybersécurité, donc un professeur de cybersécurité, qui monte une équipe, ils ne sont pas énormes. Et il commence à dire voilà, maintenant, ce qui rentre et ce qui sort de flux d'informations en Chine, il faut qu'on sache ce que c'est, il faut qu'on ait la main dessus et dire ça passe, ça passe pas.
Donc là, c'est 1990.
C'est ça, un peu après, ouais, c'est ça, dans les années 90. Dans les années 90, parce qu'ils ont l'intuition. Si, je ne sais pas comment dire, pour moi, c'est un peu. Voilà, les soviétiques avec le cinéma, la Chine avec le numérique, pour moi, il y a un délire. Enfin, je sais pas comment. Ils ont vu le truc médiatique et la portée du truc. C'est pas juste. Ici, si vous voulez, dans les 90, c'était ouais, c'est un média, c'est journalisme. Enfin, j'ai parlé. C'était sur le média, c'était tous les trucs, un peu McLuhan, un peu tout le truc de freedom of speech américain et tout ça. Tout le côté média qui était fascinant pour eux, c'est une infrastructure. C'est une infrastructure de gouvernance. C'est. Voilà, genre, on va planter. Ça permet de. Alors. Le côté contrôle, il est natif dans tous les systèmes informatiques, c'est le truc de l'administrateur. Donc pour eux, il y a ça. Et puis après, c'est le côté efficacité, etc. Et donc dans tous les Golden Projects, c'est ça qui est mis
là,
en avant.
Tu parles de début 90.
Oui, début 90.
Parce que même aux États-Unis, début 90, ça a été que, c'était que un réseau public, enfin, du gouvernement.
Non.
C'était pas encore ouvert.
Oui, non, c'est. Ouais, peut-être c'était un peu après, 95, 80. Ouais, mais c'est assez rapidement, 95, 96. Il y a les dates dans l'article, j'ai pas toutes les dates en tête, mais c'est une chronologie, je vous fais grosso modo. C'est pas.
Ça veut dire qu'ils sont. Ils veulent aussi pas ce qui va leur arriver, parce qu'ils arrivent en URSS au même moment.
Exactement, c'est la perestroïka.
Donc eux, ils voient TNNN, ça peut dégénérer la perestroïka.
C'est exactement ça.
Donc sécurité, contrôle.
Ouais, ouais. Il y a ça, il y a sécurité, ouais, contrôle et protection, ouais, et protectionnisme.
Aux États-Unis, dans les laboratoires, il y avait la moitié des physiciens à l'époque, c'était des Chinois.
Oui, oui.
Et en fait, ils étaient d'entre eux, il y avait très peu de Français, très peu d'Européens, en fait, et il y avait des Chinois. Et en fait, ça avait effectivement. Internet était là, et partout, connecté tout, mais c'était, pour l'instant, c'était un truc entre les universités.
Oui, oui.
C'était pas encore.
Alors, c'est, ça doit être la fin, presque le début des années 2000, j'imagine. Je n'ai pas toutes les dates en tête, la chronologie exacte.
L'intuition en voyant ce qui se passait à cette époque-là aux États-Unis.
Je pense, ouais, et puis je pense que même aux États-Unis, je pense que ce qui se. Enfin, j'en sais rien, je ne suis pas historien dans les détails, mais. La différence, c'est qu'en Chine, il n'y a pas de marketing, quoi. Enfin, il n'y a pas la partie. Parce qu'ils n'ont pas besoin de vendre les trucs, vu que. Gouvernement, il fait ses trucs sans avoir besoin vraiment de le vendre à la population. Quoi. Donc du coup, toute la partie-là, elle passe un peu à la trappe.
Est-ce que tu as mentionné très rapidement Alvin Toffler, c'est ça? C'est le Future, oui. Shock et Third Wave. Mm-hmm. Ça, c'est une grande influence dans,
ouais,
l'idéologie.
Du Tianzhen, bien sûr. Hein. Oui, parce qu'il lisait tous ces trucs-là. Je pense que c'est des gens qui étaient son fils. Il envoyait son propre fils à la Silicon Valley. Et c'est son propre fils, quand il est revenu, qui a géré le premier provider. Non, mais c'est des trucs très importants. Oui, mais je pense. Ils étaient fascinés par les États-Unis. En fait.
Il y a possibilité, pardon, de contextualiser parce que tout le monde n'est pas connaisseur à ce moment-là. Au passage, merci.
Pardon ?
Dans cette histoire de Toffler, les deux livres qui ont été très populaires, je crois, aux États-Unis, sur le choc du futur et la troisième vague, et moi je l'ai réalisé ça récemment. Et c'est tout ce qu'on a dit dans les milieux, y compris libertaires, de transformation de la société. Oui. C'est justement le contraire de Firewall. C'est la liberté, c'est les autres modes d'enseignement, c'est tout le rêve un petit peu de démocratisation.
Oui, mais je ne sais pas comment dire. En fait, on a cette fausse dichotomie comme quoi le gouvernement chinois voudrait qu'il n'y ait pas de démocratisation, que ce soit absolument impossible. En fait. C'est la transformation de la Chine, donc pour eux, ils savent que de toute façon, en plus pour leur propre survie en tant que politique, ils savent qu'il faut des instruments comme ça. Et ils ont la vision de ce truc-là, mais sous contrôle. C'est-à-dire sans que ce soit entièrement, donné à la population. Et donc, je pense, en fait, on a l'impression que c'est contradictoire, mais en fait, l'histoire chinoise montre que ça n'est pas du tout. Et que du coup, toute cette vision-là, justement, mais pas que l'histoire chinoise, en fait. J'en reparlerai après, mais si j'ai le temps, mais voilà, on voit avec Snowden, avec tout ça. Parce que c'est des choses qui. Voilà, il y a une continuité dans le. Oui, oui, si, si. Mais tous les discours, justement, là-dessus, voilà. Du coup, c'est la fondation aussi de tout le blogging en Chine, donc ça, c'est plus les années 80, les années 2000. C'est vraiment même les années 2000. Voilà, j'ai mis Ai Weiwei parce que c'est le symbole de ce truc-là. C'était un blogueur super connu, Ai Weiwei, en Chine. Donc Ai Weiwei, il faut dire, juste aussi pour la contextualisation, son père, c'est Ai Qing, qui était le poète préféré de Mao, qui était le poète le plus proche de Mao. Donc, on a vu tout à l'heure le père de Xi Jinping, voilà. Il pourrait y avoir le père de Ai Weiwei sur la même peinture, si l'histoire avait été un peu différente. C'est-à-dire qu'ils sont pas au même niveau. Enfin, je sais pas comment dire, ils ont un background commun de prince rouge, entre guillemets, sauf qu'ils n'ont pas fait la même chose. Mais lui, puis c'est un artiste, son père était un artiste. Mais donc, voilà, Ai Weiwei, il a été très tôt, même des années 70, 80, ils étaient à Tiananmen, à Shidan, à mettre des banderoles, à mener tout ce mouvement de libéralisation de la Chine, en fait, parce que c'était ça. Et voilà, et donc l'Internet avec lui, c'est une grosse partie de son œuvre à partir des années 2000, c'est ça. Et en fait, il y a tout un truc qu'on a appelé le jeu, donc tout le truc du Great Firewall qui a été rendu le truc célèbre, c'est ça, c'est le jeu du chat et de la souris, du contournement, de tous ces trucs-là. Là, j'ai mis Traonim, c'était un mème super connu, c'est l'époque où tous les mèmes se développent. Traonim, c'était en fait, c'est un. Ouais, c'est, je pense que vous avez peut-être. Enfin, c'est une espèce de. C'est un jeu de mots. Tronima, ça veut dire. Je vais pas le dire, mais ça veut dire. Va te faire foutre en gros, quoi, à peu près. Et en fait, c'était un. En fait, ils ont sorti toute une vidéo qui se moquait ouvertement de toute la politique de Jiang Zemin, etc. De Hu Jintao à l'époque, c'était déjà le nouveau le président d'après. Et en gros, c'était une espèce de petite chanson débile qui était sur la musique des Schtroumpfs, d'ailleurs. Bon, bref. Et du coup, avec justement, en utilisant des mots qui ont presque la même sonorité, mais qui ne sont pas la même chose. Et donc, la sonorité, du coup, faisait que c'était cette petite animal là que j'ai mis, c'est un alpaga, vous voyez, comme un lama, un peu, ça ressemble. Donc voilà, et bon, c'est juste un des mèmes qu'il y a eu, mais après, il y a eu toute une confrontation qui est passée. Après, il y a eu Twitter qui est arrivé en Chine, qui a été fermé. Il y avait tout un tas de choses autour de. Puis les services à l'époque prenaient une grande ampleur, même économique, stratégique pour la Chine. Eux, et, une grande partie des raisons pour lesquelles ils ont voulu contrôler tout ça, c'est parce que ils voyaient aussi que c'était une manne gigantesque. Parce que c'est incroyable. Aujourd'hui, on voit bien les entreprises, la taille des entreprises, et du coup, ils voulaient absolument pas que l'argent que ce soit des entreprises américaines qui finissent avec tout cet argent. Et donc, le fait de pouvoir fermer tel site, il y a contrôle de l'information, mais il y a aussi contrôle des flux financiers, économiques, des investissements qui vont dedans, etc. Et,
c'est aussi des outils un peu à l'Est américain aussi, quelque part.
Oui, oui, après, c'est ça. Eux, ils ont toujours dénoncé. On en parlera après, mais les concepts qu'on retrouve aujourd'hui, il y a plein de concepts légaux qu'on retrouve. Bon, ça, je vais peut-être aller un peu vite, mais. Non, il faut quand même que je parle de ça. Je ne sais pas combien de. Mais, ouais, vous me dites, c'est vraiment. Tout le monde va avoir faim. Merci. Ça, c'est pour montrer un peu. En fait, le grand truc qui se passe, c'est ça. C'est encore une fois un lien un peu avec l'urbanisation. C'est-à-dire que les gens, ils débarquent dans les villes. Donc là, il y avait la zone économique spéciale, qui était un truc un peu fermé, mais des villes de 10 millions d'habitants en Chine, il y en a centaines aujourd'hui. Enfin, il y en a plein. Même plus que ça, je pense. Mais du coup, il y a des villes qui sont créées qui sont gigantesques. Et donc, toute la question, c'est les villes qui grandissent. Moi, j'étais à Wuhan entre 2007 et 2012, un truc comme ça. Je sortais de chez moi, il y avait vraiment littéralement des nouveaux ponts, des nouvelles routes. J'achetais un truc, je revenais, le magasin avait été détruit, il y avait des tours. C'est la ville dynamique. Et du coup, il y avait énormément de gens. Par exemple, si vous prenez Wuhan, la ville de Wuhan, qui fait je ne sais pas combien de millions d'habitants aujourd'hui. À la base, c'est trois petites villes, enfin trois villes moyennes qui conurbent. Il y a Liangtze et Hanjiang, un fleuve. Et l'ambiance générale de la ville, en tout cas en 2007, c'était genre un village, parce que tous les gens, ils venaient de la campagne. 99% des gens qui étaient là, ils n'étaient pas de Wuhan du tout, puisqu'il n'y avait pas de ville avant. Donc ils arrivaient, Luchon. J'ai fait plein d'après-midi, je me posais à la gare, et on voyait des gens qui arrivaient, des trains entiers de gens avec des gros sacs. On y va, on va s'installer, on va bosser. Il y avait tous les chantiers à construire, donc énormément de gens qui énormément de travail. Ça avait besoin d'énormément de gens pour construire, donc les gens arrivaient. Et donc, un des trucs, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Et donc, le cybercafé, c'était une espèce de lieu mythique pour tout le monde, parce que c'est là où les gens qui ne parlaient pas le dialecte, ils voulaient traduire. Il y avait des gens qui voulaient parler avec leur famille, le chat. Il y avait des gens qui voulaient trouver du boulot, qui voulaient trouver un endroit, qui voulaient faire des recherches, etc. Et donc le cybercafé, il y en avait partout. Et le chat de base, c'était QQ, qui était le truc de Tencent, qui est maintenant devenu WeChat. Mais ce chat, c'était, c'était un, je sais pas comment dire, vraiment une infrastructure sociale, une infrastructure de la société chinoise. Au sens, ça fonctionnait avec ça. Mais, on pouvait, les gens, moi j'envoyais des messages pour, je sais pas, acheter à bouffer, on envoyait des messages sur QQ, au truc qui était en bas, faire des photocopies, envoyer le fichier par QQ, la grand, on rentrait, et donc les gens, ils jouaient, je sais pas, et donc QQ, c'était, c'est un truc multiplateforme. Dites-vous, je crois qu'il y a la net dedans, je sais plus si je l'ai mis, ils ont lancé le QCoin, quand même, QCoin, avant les années 2010, en 2007, je pense, ils avaient une monnaie spéciale, tellement ils vendaient d'habits pour des avatars, vous voyez, des petits trucs. Donc il y avait des jeux, Qzone c'était des blogs, QQ, et les jeux, le karaoké à fond, toute la musique en streaming gratos parce que c'était entièrement, à l'époque, légal de pirater tout, on va dire, entre guillemets. En tout cas, c'était dans la zone grise, tout le monde s'en foutait. Donc les gens, ils chantaient, ils jouaient, et puis ils allaient au cybercafé, il y avait énormément de rencontres, tous les étudiants. Voilà, les gens ils venaient pour draguer, ils venaient pour bouffer, ils dormaient sur place. Tout le farming sur les jeux vidéo aussi pour gagner de l'argent. Les gens ils jouaient aux jeux vidéo et pour gagner de l'argent. Bref. Et donc c'était c'est une image, je pense, des années 2000, n'importe quel Chinois il se rappelle de ça. Vous pouvez parler de cybercafé, c'est genre des trucs gigantesques sur des étages et des étages avec des gens qui dorment, avec des mecs qui passent avec de la bouffe. Donc je pense que c'est. Voilà, en tout cas dans l'idée de cette mythologie chinoise d'Internet, ça c'est un truc.
Vous avez Internet illimité aussi, parce que moi je me souviens qu'on avait 10 heures d'Internet par mois.
Ouais, alors là, les cybercafés, ils s'occupaient de ça. Non, parce que justement, le gouvernement, ils ont investi énormément. En fait, à l'époque, il y avait donc le CIN, ICC, qui fait les rapports sur l'état de la numérisation en Chine. Et non, mais c'est. Le but, c'était d'amener... Parce que comme c'est un outil, entre guillemets, on dirait un outil de contrôle ici, mais comme c'est une infrastructure centrale pour la gouvernance du pays, on va dire, eux, et le but, c'est de l'amener dans le dernier village, quoi. Et donc, ils l'ont fait. Et Huawei, c'est comme ça que Huawei est devenu Huawei. Ils ont creusé des câbles, ils ont posé des trucs dans des coins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont capables d'aller dans le désert. En Afrique, ils arrivent, ils font « Oui, oui, on va passer un câble là qui va faire 10 000 km de long. » Enfin, du coup, toutes les infrastructures numériques. Et donc, finalement, c'était pas si cher, c'était le fait que ce soit accessible, c'était central dans le fait que...
Oui, ils avaient tout avant nous, en fait.
Il y a aussi une partie logique, genre le Gonkai, où les gens s'échangent sur comment ça marche, etc.
Oui.
Passent des plans, et ce qui développe une culture pour comprendre comment ça marche, et ensuite développer ses propres trucs.
Oui, alors ça, c'est plus lien avec vraiment le côté industriel de la production. Gonkai, après, c'est un truc qui a été... Ouais, c'est en lien avec ce qui se passe à Shenzhen, c'est-à-dire le fait de construire des objets, etc. C'est un concept un peu de... C'était comment David Lee et Benny Huang, des types qui étaient là-bas, qui avaient sorti ce truc-là. Oui, l'idée, c'est que les pratiques, mais ça, c'est sûr, on revient aux parties manufacturing, fabrication. Si on regarde juste les pratiques des mecs qui faisaient ces téléphones comme ça, c'est hyper similaire avec les gens qui font de l'open source. Parce qu'il y a des partages de plans dans tous les sens. Les mecs qui partagent, ils savent que ça, c'est là, ça, c'est là. Donc, ils assemblent, en fait, des trucs. Qu'est-ce qu'on fait dans l'open source? On assemble, on écrit une grosse partie du code pour que ça fonctionne. Mais, en fait, on peut assembler juste et ça va marcher. Et donc, en ça, sauf que la différence, c'est qu'il n'y a pas de marketing, pas de communauté, pas de channel, pas de marque.
Il y a des gens qui fabriquent et pas des gens qui utilisent.
Oui, oui. Mais même.
D'avoir un savoir-faire et tout qui se développe, et donc d'industrialiser un pays, de savoir fabriquer des téléphones.
Oui, c'est ça, oui. Donc le fait de pouvoir apprendre comme ça, c'était. C'est ça, les gens, ils ont appris vraiment, enfin, on dirait sur le tas ici. Et donc, QQ, oui. Et puis l'autre truc aussi, que je pense l'Internet est un gros vecteur, c'est l'apprentissage en Chine. Donc ça, c'est une. J'ai pris parce que ça c'est une vision classique en Chine, mais c'est une porte d'une université. Les universités en Chine, c'est fait des campus à l'américaine, donc tout le monde dans les dortoirs. Et du coup, pour pas que ce soit le chaos dedans, ils n'autorisent pas les livreurs de colis à rentrer dedans, parce que sinon, il y aurait des motos tout le temps. Les mecs à la porte, ils n'en peuvent plus. Et donc, ce qui se passe, c'est que tout le monde vient faire... Donc, il y a des milliers et des milliers d'étudiants. Et donc, tout le monde vient faire livrer son colis devant la porte. Et du coup, vous arrivez devant les portes d'université. Ça fait 3 ans que je peux être en Chine, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais vous aviez une mer de petits colis de toutes couleurs et de toutes tailles. Les étudiants, ils ouvrent, oh, un verre USB, enfin, tout ce qu'on peut commander, voilà, ou des sapes, je sais pas, des chaussettes, n'importe quoi, ce que peuvent commander les étudiants dans un dortoir. Donc j'ai mis ça comme photo parce que l'autre chose que l'Internet a permis en Chine aussi, c'est qu'en même temps, les gens, ils arrivaient, donc ils devenaient urbains, Donc ils étaient à la campagne, voilà, ils n'avaient pas eu pas d'argent. Enfin, c'est des coins hyper. Où il y avait beaucoup de misère. Ils arrivaient en ville et donc il fallait aussi qu'ils apprennent les habitudes de la ville, qui sont la consommation. Quoi. Voilà, parce que la ville, c'est la place de marché, enfin, historiquement, la fondation de la ville. Quoi. Et donc, et énormément de ça est passé par Internet. Et donc, la boîte qui est représentative de ça, c'est Alibaba. Alibaba, c'est donc une énorme boîte gigantesque qui comprend donc toute la partie comme Amazon pour les Chinois. Donc, mais surtout avant, tout l'export, toutes les usines, elles ont permis. Alibaba, ça a été l'infrastructure pour exporter directement vers les usines ici. Quoi. On pouvait acheter sur Alibaba et le coup de génie de Jack Ma, fondateur d'Alibaba, c'est d'avoir mis en lien toutes les usines chinoises pour qu'elles puissent acheter sur Internet entre elles et à l'international, vendre des pièces, vendre ce qu'elles produisaient, etc. Et donc vous avez une série de sites, il y en a plein, Taobao, Alibaba, Yaobaba, plein de sites qu'on est. AliExpress aujourd'hui qui arrive en Europe, ouais, mais il y en a plein. En Chine, après il y a des trucs plus chers, moins chers, des plateformes plus pour tel truc. Maintenant c'est un empire gigantesque, ils font tout, de la banque, tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça fait partie aussi. Donc Kuaidi, c'est le livreur. Et par exemple, le livreur, donc aujourd'hui on l'a un peu, parce qu'on voit les livreurs Uber. Livreur en Chine, c'est un personnage dans la ville qui est omniprésent, le mec à moto qui est en retard, qui a 3 téléphones et qui est en train de livrer tout le monde. Et c'est un truc, par exemple, pour les Chinois, tous ces métiers de livreur, le e-commerce, ça, vendre des paquets, vendre des trucs par Internet, c'est considéré comme, même dans la loi chinoise aujourd'hui, comme des métiers à super haut risque. Parce que c'est des métiers, les gens, ils font des crises cardiaques, voilà, ils ont des accidents de moto, il y en a tout le temps. Parce que c'est des trucs hyper intenses, où il y a une demande folle de la part des clients aussi, parce que les gens, ils veulent leurs trucs. En Chine, aujourd'hui, on achète une télé dans une grande ville, à Shanghai, on achète une télé, elle est livrée dans les 6h, 8h. Les gens, ils viennent, ils la montent, et sans que vous l'achetez, elle arrive. Mais littéralement, je suis sûr qu'il y a des trucs, si vous payez plus cher, ils la livrent en 1h. Ou 2h peut-être, parce qu'il y a des bouchons. Mais, donc voilà, ils ont développé tout ce truc aussi, une infrastructure. Et ça, c'est à l'échelle du pays, qui est gigantesque. Et donc en même temps, vous avez la production, et en même temps, vous avez toute cette partie commercialisation, infrastructure, livraison et tout, et qui existe depuis super longtemps, parce que... Voilà, enfin, les livreurs, ça fait depuis 2010, au moins 10 ans plus que ça, qu'il y a des livreurs partout dans les villes en Chine. Donc, dans les ascenseurs, c'est interdit.
Il y a une autre tradition dans toute l'Asie, de livraison de manière générale, que dans toute l'Asie, les mecs qui livrent en pousse-pousse et machin.
Oui, sûrement. Oui, bien sûr, ouais, je pense que ça fait partie du.
Le dernier kilomètre, il a été inventé depuis super longtemps en Asie.
Oui, sûrement, mais c'est possible. En tout cas, en Chine, aujourd'hui, ça passe. Ça fait partie de la mythologie,
moi je pense à des entreprises françaises, ils ont tendance à appliquer quand même les savoir-faire français ou autres occidentaux, par exemple Alstom ou des choses comme ça, ils ont tendance aussi à pas appliquer pas mal de savoir-faire extérieurs et que les occidentaux laissent faire.
Alors tu veux dire que dans la fabrication par exemple des produits
toutes les industries de savoir-faire.
Les Chinois, tu dis
ouais.
C'est ça. Ah oui. Ok. Du coup. Non, un peu. Non, mais c'est pas forcément faux. En fait, ce qui se passe, c'est double truc. Si tu vas dans une boîte et que tu observes, en fait, tu n'apprends pas grand-chose. Mais surtout, ce qui s'est passé beaucoup, c'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire que les boîtes, elles ont localisé. Parce que ici, c'était trop cher. Donc les gens, ils ont préféré aller en Chine faire des trucs. Donc pour aller en Chine, il faut des Chinois, donc il faut les former. Parce que tu ne peux pas faire des trucs comme ça. Donc tu peux dire, allez, j'ai mes 10 ingénieurs français blancs qui gardent le secret, mais ça ne marche pas très longtemps, parce que quand il faut fabriquer quelque chose, ils sont obligés de savoir. Donc ils forment des Chinois en masse. Après, les Chinois, ils savent faire. Donc après, on dit, ah, mais ils nous ont volé notre truc. Donc ça, c'est une chose. Sur les savoir-faire, parce que tu parlais des savoir-faire. Ça, c'est une partie de savoir-faire. Après, l'autre, il y a le cas inverse, par exemple, sur la recherche, par exemple. Ici, moi, j'ai vu dans les universités, on dit, ah oui, les Chinois, ils viennent, après ils rentrent, ils nous ont piqué les trucs de labo. Je fais, oui, mais vous voulez tous des doctorants chinois. Tous les gens, ils veulent des doctorants chinois, ils en prennent 10, parce que les Chinois, ils ne demandent pas grand-chose. Et voilà, ils y a des financements, parce que tout le monde veut travailler avec la Chine. Donc les financements scientifiques avec la Chine, c'est facile. En tout cas, pendant longtemps, c'était genre, ah oui, vous voulez 3 doctorants chinois, on va tout payer. Tout payer par la France, ou par, je sais pas qui, des fondations, des trucs. Donc voilà, se retrouver avec plein de docteurs en chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent. Ils sont là pour apprendre, ils font leur doctorat, ils font leur truc, ils restent en post-doc, puis après ils rentrent en Chine. Et après les gens sont là, oui, ils nous volent notre savoir. Donc il y a une position aussi de par rapport, oui, on a des savoirs. Après, bien sûr qu'il y a aussi plein d'espionnage industriel, de vol, tacite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de reverse engineering. C'est-à-dire que les gens, ils prennent le truc. Ce que je vous disais, le mec, il arrive, quand je dis il a un moteur ouvert, parce que le mec, il a fait ça toute sa vie, mais il prend ça, il l'ouvre. Et ça, il va te dire, ça, je peux pas faire, parce que...
On a vendu 10 000 pièces en Chine, et puis t'as les Chinois qui sont en train de parler en chinois, et les autres qui ne comprennent pas. On va démonter leur truc, et puis la semaine prochaine, on en prend 100 000.
En fait, par exemple, les Chinois, ils apprennent sur en démontant le dernier iPhone, et dans les universités françaises, c'est des trucs d'il y a 20 ans qu'on a.
Oui. Mais parce que. Après, en plus, voilà, il y a le truc, les Chinois, mais c'est même pas... En plus, ça va pas être dans les universités... Enfin, il y a des parties dans les universités, mais... Par exemple, la réparation iPhone, qui est en Chine. Moi, si je vais faire réparer mon téléphone à Paris, je sais où je vais aller. Je vais dans une rue où j'ai vu tout à l'heure, c'est quoi, rue du Maire, réparateur de ce truc, vous allez là, c'est des Chinois, mais...
C'est là où habitait Deng Xiaoping.
Ah oui, d'accord. Eh ben, dans le... À Shenzhen, les gens, ils savent réparer des iPhones. Je dis les gens, il y en a plein, c'est genre pas un truc fou. Il y a les pièces, elles sont là. On peut dire, en fait, si je fais un écran d'iPhone, c'est considéré comme de la contrefaçon et je vais en prison. Je sais le faire, bien sûr. À un moment donné, le savoir-faire, quand il est tellement spécialisé qu'il faut une vie pour l'apprendre, si le mec il a passé sa vie à l'apprendre, tu dis bon.
Par contre, les batteries, c'est un gros problème qui ne dure pas longtemps.
Oui, alors après, il y a tout un tas de problèmes de qualité, il y a tout un tas de problèmes sur tout un tas de choses. C'est pas la question de dire il n'y a aucun problème, tout est super, ou il n'y a pas de vol, ou il n'y a pas de mesquinerie, il n'y a pas de violence. C'est pas du tout ça. Je ne suis pas pour défendre, c'est juste il y a des réflexes qu'on a sur certaines choses qui se produisent, je pense qu'ils sont assez loin de la réalité. Et nous, ça nous protège en disant, mais oui, mais c'est à nous, c'est à moi, c'est moi. Mais en fait, il y a des trucs qui sont... Je sais pas comment dire, enfin à un moment, c'est aussi normal. Il y a la question sur le vaccin du Covid. C'est normal que les. Bah oui. Et si le mec il choure et qu'il refait, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien, c'est mal. Enfin, c'est toute la question après de la propriété intellectuelle, la propriété privée en général, mais de la propriété intellectuelle surtout. Et c'est des questions sur les savoir-faire, en tout cas, et surtout sur la capacité à les mettre en œuvre. Parce que tu peux être formé ici et puis savoir faire un truc, mais après, en faire 20 000, en faire 100 000, en faire 200 000. Ça coûte cher, mais c'est aussi... Les gens, ils ont l'impression que c'est juste une question d'investissement, mais c'est un savoir-faire. C'est extrêmement difficile. De la production, c'est un truc... c'est vraiment difficile. C'est vraiment compliqué de faire un truc. On a essayé, par exemple, même un livre. T'en fais un, t'en fais 10, tu les couds, t'en fais 1 000, t'en fais 10 000. Il faut de l'organisation, il faut des savoir-faire. Et quand c'est des objets complexes, avec différentes couches technologiques, des couches de logiciels, des couches de hardware, le packaging, production, les trucs, des chaînes et tout... Tu finis avec des trucs et les gens. Et aujourd'hui, on le voit parce qu'il y a tous les transferts. L'Amérique, enfin les États-Unis, elles ont la volonté de retransférer les usines parce qu'avec tout ce qui se passe avec la Chine, de retransférer aux États-Unis. Ils ont essayé d'ouvrir une usine Foxconn en Arizona. Bien sûr que ça. Du coup, il faut des Chinois. Parce que c'est eux qui. Mais c'est eux qui savent faire. Hein. Parce que là, aujourd'hui, des blancs qui savent assembler des iPhones, ça n'existe pas. Et donc, du coup. Et si tu veux assembler des iPhones, il va bien falloir que tu trouves des gens. Et le problème, c'est que, par contre, quand tu mets 8 000 ou 800 Américains et que tu leur dis « votre boss, c'est lui », et que c'est un cantonais, ça ne passe pas du tout. Quoi. Donc, à un moment, il y a aussi une position de dire « voilà, aujourd'hui, il y a des trucs qui sont inversés, il y a des dynamiques qui sont différentes. » Et eux, ils ont fait tout un chemin d'apprentissage aussi dans leur direction. Il y a des trucs qu'on a l'impression qu'ils nous ont volés. Après, ils en ont inventé certaines.
C'est pour ça qu'on n'avait même plus d'électroménagers, de meubles.
Oui, oui, c'est évident. Ça, c'est ça. Comment dire? C'est pour faire très simplement. Je sais pas comment dire, mais des fois, ça me fascine même au niveau politique, c'est-à-dire que dans les années 90, les décisions elles ont été prises de délocaliser tout l'argent, tout l'investissement en Chine. Les Chinois, ils ont fait venir parce qu'ils en avaient besoin. Ils ont fait leur stratégie, ils ont fait leur truc, ils ont une économie spéciale, machin. Ils ont fait OK, c'est là, venez. On vous donne notre population, ce sera vos esclaves. Les gens ont fait ouais, on y va. Les décideurs, on y va, on délocalise tout. Et 20 ans après, ils font « Ah, mais l'argent est là-bas, le savoir-faire est là-bas. » les décisions, elles ont été prises, et les résultats historiques de ces décisions, et on le voit aujourd'hui. Et donc, à un moment donné, on peut mettre la faute sur les Chinois. Je pense que c'est pour nous, en tant que en opposition d'Européens, il faut réfléchir à ce qui s'est produit historiquement et puis faire différemment. Mais les Chinois font leur truc. Pardon.
Les brevets actuels. Donc, moi, je regarde les cours, mais il y a beaucoup plus de brevets en Chine,
etc.
Et quelqu'un nous disait, ouais, mais en fait, c'est que des brevets de merde, c'est pour des trucs secondaires, il n'y a pas vraiment d'invention, il n'y a pas vraiment de recherche, etc.
C'est faux.
C'est faux.
C'est entièrement faux. C'est... Les brevets, en fait, voilà. J'allais d'ailleurs, mais bon, on s'en fout un peu, mais. Sur la question du social credit, parce que ça c'est aussi un truc, je pense que j'y arrive à peu près, mais ce qui s'est passé dans les années 90, l'autre chose qui est fondamentale pour la Chine économiquement, c'est qu'ils sont rentrés dans l'OMC, WTO. L'entrée de l'OMC, l'entrée de la Chine dans l'OMC, c'est un truc super compliqué, et les conditions, elles étaient quand même assez drastiques. Et une des conditions, ça a été, vous avez nettoyé votre pays de tous les trucs, justement, les contrefaçons, les vols, les machins. Et donc ce qui a été mis en place, c'est des systèmes de blacklist, des systèmes de points, des systèmes de trucs qui permettaient, en fait, ce système qu'on appelle le système social de confiance en Chine, qui permettait de noter les entreprises et les usines qui étaient dignes ou indignes d'investir dedans. Quoi. Vous voyez ? C'est-à-dire que les fonds américains, les fonds occidentaux, on va dire, entre guillemets, ils arrivaient en Chine par l'intermédiaire de l'OMC, avec le libéralisation de l'économie et la patte de l'OMC. Et du coup, pour faire ça, il fallait qu'ils disent, voilà, maintenant, il y a un certain niveau de confiance dans l'économie, et on peut investir dans telle ou telle boîte. Et donc, ils ont créé tout un système qui s'appelle système de confiance, et donc un système de notation pour les entreprises, qui est l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le social credit, puisque c'est le système de... Enfin, en chinois, ça ne s'appelle pas social credit, ça s'appelle credit dans le sens où Xinyong, en chinois, c'est la notion de crédit, comme dans la carte de crédit, et c'est aussi la notion de confiance. Comme on dit, porter du crédit à quelque chose, c'est un peu la même chose. Et donc, il y a la polysémie de ce mot qui a fait tout un... voilà, en plus, ils aiment bien le jargon, les trucs communistes des hautes sphères du parti et des politologues chinois. Et donc, le truc de la confiance est devenu central. Et donc, c'est devenu un des trucs... Et donc, ils ont fait des outils de notation pour les entreprises. Et ça, c'est l'origine du social credit de l'époque. Donc, a été fait, en gros, sur la demande. Enfin, en tout cas, pour rentrer dans l'OMC. Et après, pour rentrer dans l'OMC, il y avait tout le truc des brevets. Donc il y a eu notamment avec Alibaba, des grandes attaques, surtout par les marques de luxe, notamment ici. Balenciaga, Gucci, machin, sur les contrefaçons. C'est vrai que des gens au bord des routes, dans les cambrousses, avec des parapluies Gucci, des chaussettes Gucci et tout. Bon voilà, bon, tout le truc Shanghai un peu. Et donc ils se sont dit... Et donc il y a eu un clean-up sur la question des brevets, quoi, sur la question de la propriété intellectuelle. Et donc, sur les brevets, ils sont devenus... Enfin, si vous donnez... Je sais pas comment dire. Si vous donnez un système à points, vous dire, voilà, faut faire comme ça... Enfin, en gros, ça, c'est les règles, il faut gagner des points. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, en Chine, ils arrivent bien à jouer le système et à gagner des points. Quoi. Et sur les brevets, aujourd'hui, moi, quand j'ai vu plusieurs cas en Chine, de gens qui disaient, oui, on m'a chouré ça, on m'a volé sur des trucs de Kickstarter, par exemple. Chinois, c'est pas de problème. On va à New York, et tous les procès, les Chinois, ils emmènent les gens à New York, et devant l'État de New York, et ils gagnent systématiquement. Parce que, surtout les questions de brevets, parce qu'en fait, la question, c'est ce qui est brevetable, il y a une limite à ce qui est brevetable, et il y a une limite à ce que contient le brevet. Et c'est des trucs légaux qui sont faits par des avocats d'affaires américains, sans problème. Et sur la qualité des brevets, Huawei, les brevets 5G, la 5G, elle fonctionne. Enfin, c'est des brevets de qualité. Et donc, ils ont le truc, c'est que Shenzhen, ils ont toute la zone de Shenzhen, qui est une des zones qui produit le plus de brevets, avec Pékin, Hangzhou, quelques zones. Ils ont énormément de centres de recherche industriels. Et ils déposent des brevets tout le temps, systématiquement. Parce qu'ils savent que c'est là-dessus qu'ils sont évalués. Parce que, justement, c'est des organisations internationales. Si vous prenez l'OMC ou la Banque mondiale, les gros rapports qui sortent, un truc qui s'appelle... WIPI, World Intellectual Property, WIPO, qui est à Genève. J'avais été avec des étudiants, on m'avait emmené, j'avais été voir le mec, qui est responsable. Ils font un truc qui est à peu près un peu plus gros que ça, qui est un gros cahier, qui est le classement annuel de l'innovation. Les pays les plus innovants du monde. Bon, je ne vous dis pas le truc, mais dedans, vous regardez, c'est un espèce de truc, c'est un peu comme l'âge du capitaine, ils font un indicateur à partir de 800 indicateurs. Et dedans, l'indicateur fondamental, c'est la quantité de brevets. Et du coup, c'est là-dessus que c'est évalué. Eux, en bas du WIPO, ils ont des énormes data centers où il y a tous les brevets internationaux. Et donc, les Chinois, ils font, nous, il faut qu'on monte dans ce ranking pour être le pays le plus innovant. Parce que quand tu es le pays le plus innovant, ça le fait. c'est cool, tu peux déjà dire en société que tu es le pays le plus innovant, et puis après, tu tires la bourre avec les États-Unis, et en plus, les capitaux, la reconnaissance internationale, etc. Donc, sur la question des brevets, ils déposent des brevets tout le temps, parce que nous, on évalue l'innovation dans le monde sous cette forme.
Mais là, la question, c'est est-ce qu'ils déposent des brevets de merde juste pour augmenter les chiffres, mais en fait, quand tu regardes
les deux,
c'est rien, ou est-ce que tu penses que les innovations qui vont changer les choses, ça va plutôt venir de...
Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a les brevets, et après, il y a le secret industriel. Il y a des brevets de qualité, il y en a plein, parce qu'il y a des technologies qui fonctionnent. Et on le voit sur les panneaux solaires, sur toutes les technologies. Aujourd'hui, si vous prenez les plus grosses boîtes, je sais pas, génomique, drone, photovoltaïque, tous ces trucs-là, les plus grosses boîtes qui ont tous les brevets, elles sont toutes en Chine. Les plus grosses boîtes de drone, c'est DJI, elles sont à Shenzhen. BGI, Beijing Genomic Institute, c'est à Shenzhen. Voilà, toutes ces boîtes, elles sont là. C'est des leaders, voilà. Donc, et ils ont les brevets, c'est des vrais brevets.
Après, c'est pas forcément désirable, enfin, ça donne un contrôle sur la technologie, il y a d'autres voies, genre les logiciels libres qui s'appliquent aussi au matériel, etc.
Oui, oui, mais là, c'est... Ça, c'est... Ouais.
En Amérique, si.
Mais... Oui, mais mollement, mais voilà, sinon, pour le reste, t'as pas de brevets sur les process et sur les softs, parce que c'est des choses que tu peux pas...
Tu peux pas les attaquer.
Ouais, Android.
Ouais.
C'est toujours. Pourquoi acheter des téléphones Huawei ici, t'as pas l'intérêt.
Non. Non, maintenant ils ont redéveloppé là, je pense, une autre partie de l'OS, puisque c'est un kernel Linux avec une couche.
Oui,
non,
mais
ils ont juste
mais,
pas Google
mais, sur la question des brevets,
pourquoi
ça en est arrivé à cette crise-là et pourquoi...
Bah oui, ça en est arrivé aussi parce que les brevets, c'est après c'est un levier d'action, d'attaque aussi. Sur...
Par contre, pour les vaccins, ça serait bien de donner les brevets.
Oui, après, donc il y a cette question, c'est brevet, c'est voilà, c'est ultra complexe.
Il y a aussi les publications scientifiques.
Oui, oui. C'est pareil, c'est un système aberrant, mais c'est comme ça qu'est évaluée la recherche internationale.
Et ce qui est marrant, c'est que récemment j'ai vu un truc sur le nombre de publications, donc c'est le critère qui est regardé, c'est qui publie plus, donc les Américains, les Chinois, machin. Et en fait, quand tu regardes après le nombre d'erratum, de corrections qui sont faites aux articles, les Chinois explosent tout le monde.
Oui, sûrement.
Et en fait, parce qu'il y a plein de trucs qui sont les mecs font « Ah, excuse-moi, j'ai mis une erreur. »
Oui, bien sûr. Non, mais parce qu'il y a une logique productiviste. Mais parce qu'au niveau international, c'est le seul moyen qu'ils obtiennent de reconnaissance.
Oui, parce que
mais je ne sais pas comment dire. Sur le, par exemple, sur moi, je travaille à l'EPFL. C'est pas la Chine, c'est la grande école polytechnique de Suisse, machin truc. Les gens, ils sont évalués sur leur papier de recherche jour et nuit. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté la recherche académique. La vraie statistique sur les papiers de recherche, c'est pas que la Chine a fait machin, c'est qu'il y a 80%, je crois qu'il y a 70% qui sont jamais lus, à part par les reviewers, et peut-être 10% qui sont cités. Donc, il y a une masse gigantesque de trucs qui existent, qui n'ont pas lieu d'être, qui n'auraient même pas existé. Donc, pour la majorité, j'en suis sûr, qui sont faits uniquement pour l'évaluation managériale. Et si vous voulez, il y a un super livre de Soupio qui s'appelle « Gouvernement par les nombres », où il explique bien ça. C'est la tradition, c'est Gosplan soviétique, management, KPIs, indicateurs, tout ça, et chinois, truc. C'est une culture générale de l'évaluation statistique par les chiffres, qui est complètement aberrante. Les Chinois, là-dedans, ils sont ultra forts. Parce qu'en gros, grosso modo, historiquement, ils l'ont inventé, quoi. Donc si tu leur mets des trucs chiffrés, ils leur disent « c'est ça l'objectif », ils vont faire bim, parce que le mandarinat impérial, la structure impériale, l'histoire historique chinoise, des examens, par exemple, mandarino, c'est un truc qui remonte à des millénaires. Donc, pour eux, ça fait partie de la culture profonde d'avoir des mecs qui t'évaluent sur des trucs à la con, avec des indicateurs chiffrés. C'est un truc dont ils raffolent. Et en plus, ils ont la couche Gosplan soviétique, la culture héritée de la culture scientifique et technique des instituts des sciences soviétiques, par-dessus, plus la culture internationale du management américain, qui est grosso modo la même chose, avec des indicateurs dans tous les sens. Donc, tous ces indicateurs chiffrés, ils sont super forts là-dedans. Donc ils font les patents des brevets de mauvaise qualité, des papiers de mauvaise qualité, parce que, in fine, c'est ça qu'on demande au niveau international, comme exigence de qualité, ce qui est le grand drame en soi. Après, oui, ils sont pas. Alors, on peut dire oui, ils sont pas réglo, mais franchement, le système en lui-même, il est idiot. Donc est-ce que quand tu te joues d'un système idiot, enfin, je ne suis pas à leur décharge, je ne dis pas qu'il faut faire, mais le système est complètement aberrant de base. Donc je pense que la critique, pour moi en tout cas, elle se porte sur la Chine parce qu'elle a bon dos, parce que c'est toujours facile, comme ça on dit regardez-les, ils font des trucs, ils sont vraiment minables. Mais si on se regardait dans le miroir, on ferait on fait pas beaucoup, beaucoup mieux dans ces domaines-là. Donc.
Pour cette éducation scientifique, je pense que la France n'est pas tellement meilleure que la Chine en fait.
Bah, on publie beaucoup moins, mais on a beaucoup moins de retours.
C'est le problème de ça.
De ce point de vue-là, le professeur Raoult était chinois. Quoi.
Ouais. Non, il est pas chinois. C'est pas.
On s'éloigne du sujet,
mais revenons au sujet. Mais c'est pas d'être chinois, c'est d'être dans la communauté internationale scientifique. C'est pas... Et les Chinois, ils veulent en faire partie. Et la porte d'entrée, c'est ça. On leur dit c'est ça la porte d'entrée, ben ils vont rentrer par là. C'est voilà, il y a pas. Donc bon, après voilà. Mais...
J'ai une question qui a rien à voir. Ouais. Dans les universités chinoises, les examens, est-ce qu'ils sont faits comme à l'américaine par des QCM?
Ça dépend des examens. Non, non.
Les Américains, ils adorent le QCM.
Non, mais les Chinois aussi, mais...
C'est du numérique, c'est pas l'analogique, la réponse. On pose une question, tu dois répondre par 1, 2, 3, 4.
Ça dépend vraiment des... Si, il y en a beaucoup, mais en France aussi. En France, moins, parce que les profs, ils sont encore plus corvéables. Il faut corriger des milliers de copies.
On n'aime pas trop ça, mais par contre, je me demandais si les Chinois aimaient ça comme les Américains adorent ça. Ils numérisent la réponse.
Pareil, des examens, mais c'est vrai que
Pouvoir voir de la terre. Ce que je me disais aussi. Je vais plier ça.
L'histoire des examens, c'est vrai que la Chine, en fait, il ne faut pas la voir comme ils font les examens un peu différents. Il faut la voir comme la source de l'invention de l'examen de base dans justement l'ancienne Chine impériale. Et d'ailleurs, un truc qu'on s'était dit, mais après à vérifier, c'est que c'est apparu en Europe, toutes ces histoires d'examens, au moment même où on a commencé à s'intéresser à la Chine,
bien
au 16e, 17e siècle.
Évidemment. Hein.
Donc, mais... il y a certainement un passage de connaissances, donc c'est vraiment la source, quoi.
Non, mais en plus, un des trucs, pour finir sur l'examen, en Chine, l'examen, je sais pas comment dire, si vous allez à Nanjing, à côté de l'université de Nanjing, il y a un musée des examens mandarinaux qui est super, avec des petites salles et tout, ils passaient les examens à l'époque, et la moitié du musée, c'est sur la triche. Non, mais c'est sur les techniques de triche. Chaque année, vous avez. Gaokao, c'est l'examen le plus difficile en Chine, c'est l'examen du bac. C'est un examen terrible pour la jeunesse chinoise, c'est terrible. C'est hyper difficile. Donc à 17 ans, vous avez l'examen le plus dur de votre vie. Quoi. Et les gens, tous les ans, il y a genre la queue à l'hôpital parce que les mecs, ils se mettent des mini oreillettes dans l'oreille interne, dans l'oreille, pour pas que ça se voit, il faut que ce soit tout petit. Et ça tombe dans le cou du auditif. Et donc, il y a les services d'ORL, ils sont en train d'enlever les trucs. Bref, c'est une anecdote, mais la triche et l'examen, donc bon, voilà, je sais pas comment dire, culturellement, ça fait partie de l'examen. C'est-à-dire, mais c'est vrai, mais c'est une vérité, tous les gens qui ont été profs, c'est une question irrésolue qui fait qu'il y a un tabou général, mais c'est vrai. Et tous les gens qui ont été élèves, encore plus. Qui a jamais triché? Merci. Oui, il y a toutes sortes de trucs. Non, après, voilà, il y a soit l'escalade. Bon, bref. Mais je vais terminer parce qu'il est déjà super tard. Bon, ça, je voulais juste mettre un mot parce que c'était rapport à la vente. La culture, la TikTok, pour vous dire, ça, c'est un truc qui est proche, là, qui est actuel. La naissance de TikTok, c'est le téléachat. Pierre Belmar, en 24/24, de vente de chaussures en Chine. Vous voyez, ça, c'est des exemples, j'ai pris des screenshots. Il y a énormément de ventes en direct en Chine qui sont 24-24. Les nanas, elles achètent des fringues, elles sont là. Dans les 10 prochaines minutes, ça c'est en vente, il y en a nouveau, reste 2000, on les envoie. Et donc les gens sont là, achète, bam, bam, bam.
Non, mais c'est une catastrophe d'un point écologique aussi.
Oui, à tous les points de vue. Mais juste pour dire que la source de ce truc, la source d'aujourd'hui, TikTok c'est une boîte à Pékin, ByteDance, c'est basé à Pékin. C'est une plus grosse boîte de streaming en Chine. Et toute cette culture numérique, elle vient de là-bas, directement. C'était une... Bon, après, il y avait d'autres trucs.
À propos de TikTok,
je vais écouter, j'en avais.
Vous voulez dire dans une émission qu'en Chine, c'est assez contrôlé qu'il
y avait
les enfants qui ne pouvaient pas passer plus de 40 minutes par jour.
Bien sûr.
Alors qu'en France, vous pouvez passer 24 heures, pas de problème. Que c'était des contenus audiovisuels, culturels, mais en fait, il n'y avait pas... Enfin, c'était des culturels, scientifiques, alors qu'en Europe et en France, surtout, vous avez n'importe quoi. Hein.
Bien sûr. Bah, après, c'est ça. Le truc, c'est qu'en Chine, en fait, les législateurs, ils s'emparent de tous ces trucs. Le jeu vidéo... par exemple, ça a été interdit pour une grande partie de la population. C'est interdit après une heure, etc. Donc les gens sont montés au plafond, mais certains parents, ils ont fait « Ah oui, faudrait que ça arrive, faudrait que c'est gêné. » Enfin, non mais, si vous voulez, en fait, par exemple, là, la Chine, en fait, sur tous ces dossiers-là, comme ils savent que c'est ça leur infrastructure de fonctionnement de l'État et de politiquement, par exemple, là, vous avez, il y a 6 mois, ils ont fait une loi cadre constitutionnelle sur les algorithmes. Et dedans, il y a des droits à ne pas être soumis aux algorithmes. Il y a des trucs au niveau légal où la mâchoire, elle tombe par terre. Parce que justement, ils ont toutes ces réflexions. Et donc sur TikTok, ils savent bien que ça abrutit les gens, et sur les jeux vidéo, ils savent aussi, et ils savent que du coup, il faut que ce soit régulé, il faut que ce soit limité, donc ils le font avec les gros sabots. Le porno, c'est interdit en Chine, parce que voilà, dans la morale là-bas, ça... Et encore une fois, vous avez toute la triche, toutes les façons de le faire et de contourner ces trucs, mais en tout cas, au niveau des législateurs, et donc des boîtes, parce qu'en plus, les boîtes, elles sont quand même largement sous le contrôle des législateurs, c'est carrément sûr. Mais par contre, comme ils savent qu'ils s'adressent à un marché où il n'y a pas ces régulations, c'est-à-dire ici, et tout le monde, en fait, c'est open bar, hein, les gamins, on peut leur mettre ce qu'on veut, ben, du coup, il n'y a pas les limitations, les mêmes limitations ici. Mais chez eux, ils savent bien qu'ils ne vont pas faire ça. Et donc, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et, c'est des... et au niveau légal, dans toutes ces réflexions, sur là, TikTok, c'est un exemple, jeux vidéo, les drones, tous les concepts. Là, j'avais pas le temps, mais la souveraineté numérique, tous ces concepts qu'on voit aujourd'hui, ça fleurit. Les gens sont là, oui, la souveraineté technologique, souveraineté numérique. Chinois, ça fait 25 ans qu'ils sont à l'ONU à faire la souveraineté numérique, machin, hein, qu'ils ont entériné ces trucs, c'est dans tous les lois cadres, dans tous les machins. Donc voilà, il y a énormément de concepts, et je pense qu'il y a énormément de réflexions au niveau légal, c'est-à-dire au niveau... Donc vraiment à des niveaux où... Parce qu'en en Europe, on a l'impression qu'on est la force légale, on a fait la GDRP, je sais pas quoi. Là, au niveau de l'innovation légale par rapport à la posture, à la position de la société par rapport à la technologie numérique, ils sont... ultra en avance, en tout cas, quand on voit aujourd'hui l'état des... Ici, l'état des... En avance, je ne sais pas, sur les résultats de ce qu'ils produisent comme loi, mais en tout cas, dans la réflexion, dans la façon de dire c'est important, il faut s'en saisir, c'est central dans la vie de la société et tout ça.
Sauf pour ce qui est
privé, non ?
Parce que ça contrevient au pouvoir.
Ouais, parce que dès le moment où tu décides de réguler le cadre social de vie, ça va être intrusif pour les gens. Donc après, eux, ils font leurs décisions parce qu'ils sont dans le contexte politique chinois. Donc ils interdisent ci et ça, ils interdisent tel média, ils interdisent même telle personne. C'est le fonctionnement du... C'est le Parti communiste chinois, hein, qui décide. Donc c'est pas...
Dans les aberrations aussi.
Bien évidemment.
Il y a un truc sur les influenceurs TikTok qui vivent sous des ponts dans les quartiers plus riches parce qu'apparemment ils ont plus de clients par rapport à des systèmes de filtres s'ils restaient dans leur propre quartier. Donc tu as des gens qui vont passer la nuit sous un pont avec leur lampe TikTok pour faire leur téléachat.
Bien sûr, mais c'est ce que...
Parce que dans le quartier qui...
Ouais, ils vont dans le quartier riche.
À diffuser, ça veut dire. Parce que c'est-à-dire que quoi, tu es né dans un autre quartier, tu n'es pas autorisé à diffuser dans ce quartier-là, tu touches moins de gens.
Oui, tu touches moins de gens en fonction de la proximité, parce que c'est, les algos, ils font que tu es plus près. Donc,
ouais, c'est ça. Donc,
c'est pas, mais,
du coup, ça crée...
Mais ça crée plein d'aberrations.
Qui vont camper...
Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est super ce qu'ils font, ils ont la solution, etc. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Je veux juste dire, au niveau de la prise de conscience, que le fait est que c'est des trucs importants. Et ça a créé tout un tas d'aberrations. Le fait est qu'énormément des systèmes... Il y a ça aussi, c'est des lois. Donc, comme toutes les lois... je ne sais pas comment dire. Le cannabis, c'est interdit en France. Les gens, ils fument. En Chine, c'est pareil. Il y a des lois, et puis l'application de la loi, c'est un truc qui est encore très, très loin de la réalité. Donc voilà, sur le numérique, c'est pareil. Il y a tel truc, c'est interdit. Ben, les gens, ils font autrement, et ils le font quand même. Mais il y a tout, c'est, bien sûr, c'est des pays gigantes. Ça, on a une illusion de dire oui, c'est la Chine, ils ont la force de pouvoir tout appliquer leurs lois. Non, c'est pas du tout.
Mais en même temps, c'est génial Internet, mais en même temps, moi, je rêverais qu'il ne vaut que le téléphone fixe.
Encore une autre question.
Est-ce que l'État chinois il prend au sérieux le fait que toute cette infrastructure que tu nous as décrite depuis le début, la production, le numérique, etc., ça repose sur l'industrie, sur l'extraction des combustibles fossiles?
Bien sûr.
Et que la moitié du pays va être invivable si on continue sur la trajectoire actuelle. Est-ce qu'ils ont une réflexion vraiment sérieuse là-dessus ?
Oui, bien sûr. Bah, ça fait... je pense que... Mais c'est d'une manière générale, en fait. Parce que donc, le numérique, c'est une partie, mais... Enfin, la pollution en Chine, c'est un dossier depuis... Moi, quand j'habite en Chine, Pékin, c'était irrespirable. On avait les indices de pollution, on avait toutes les applications, voilà, il y avait des 600 de pollution, sors pas de chez toi. Hein, mais même chez toi, ça sert à rien parce que c'est l'air, donc chez toi. Mais la pollution atmosphérique, la pollution des rivières, il y a des pandémies de cancer dans le Henan notamment, de la pollution industrielle qui sont. Quand H&M, pendant longtemps. Maintenant, ils ont délocalisé tout, il y a au moins 15 ans, ils ont dit. Vous modernisez, vous clinez les usines, vous clinez la fabrication, sinon vous dégagez dans d'autres pays. Donc c'est leur approche, hein, c'est l'approche brutale et ultra-capitaliste, mais en gros, tout est parti. Mais pendant longtemps, vous allez à H&M, vous achetez un t-shirt rouge, bah, vous savez qu'il y avait une rivière qui était rouge quelque part en Chine. C'est clair et net. Il y avait Moi, j'ai vu les villes où ils font le tissu, des villes entières où ils font tout le tissu. C'est un drame. Mais après, du coup, pour les Chinois, c'est une réalité quotidienne. C'est pas un truc genre, ah oui, c'est comme ça. Donc eux, ils savent que ça se passe comme ça et ils savent la conséquence directe de l'industrie sur leur vie et sur la santé de leurs personnes et sur leur propre santé. Je veux dire, c'est des trucs qui sont super banals comme conversation en Chine. Mais dans l'idée, après, au niveau du gouvernement, donc ça fait super longtemps, là, ce qu'ils appellent aujourd'hui, ils appellent ça civilisation écologique. C'est rentré dans la constitution chinoise comme objectif premier de l'humanité, parce que c'est... Comme c'est communiste à l'échelle de l'humanité, c'est rentré en 2010, je pense.
Ils verdissent même des déserts. Il y a même un moment où, justement, la Chine, enfin, moins maintenant, s'était mis en modèle de l'éco-totalitarisme, c'est-à-dire des sociétés ultra-autoritaires qui,
en même temps, c'est le modèle qu'on leur prête.
De la crise écologique.
Dans l'idée, si tu veux, c'est juste pour dire. Oui, je pense qu'ils ont super confiance. C'est un truc qui est super difficile à faire, on le sait tous. Enfin, voilà, c'est pas de modèle. Et pareil, leur modèle, c'est encore une fois, c'est un peu comme la zone économique spéciale. C'est-à-dire qu'ils vont faire l'expérience, donc ils vont planter une forêt, et ils vont faire les études, ils ont fait ça il y a 10 ans, la forêt elle pousse, après ils vont regarder, ils vont faire « non, c'est nul, ouais, c'est bien, mais il faut le faire comme ci, comme ça ». Puis des forêts, ils ont planté 15 en même temps, comme ça ils ont 15. Et je pense que c'était le cas sur l'urbanisme. Ça a longtemps, en fait, la Chine, c'était le laboratoire pour tous les urbanistes de la planète, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'était devenu. Toutes les boîtes architecture ici, tous les trucs d'urbanisme, etc. Si tu voulais une idée saugrenue, un truc, tu pouvais aller le faire en Chine. Alors qu'ici, tu pouvais genre, faire des dessins et des articles. Tu pouvais le faire en Chine, les Chinois, ils disent viens, de l'université, un truc, tu faisais le truc. Et ça, je pense que c'est à peu près pareil sur aujourd'hui ce qui se passe avec les technologies, avec tout ce qui est. Toutes les technologies vertes, entre guillemets, ou toutes les tentatives de modifier les modes de production ou même de consommation. Énormément d'expérimentations qui vont se faire en Chine ou par des Chinois ailleurs. Mais c'est sûr. Et c'est eux, ils ont. Toute l'industrie là, de Shenzhen et de la région, maintenant, elle est orientée vers ça, vers toute l'énergie. Après, je dis pas que c'est bon pour loin, c'est sur l'extraction de minerais. Mais
ça, c'est pas des vraies solutions.
Je sais pas s'ils ont des vraies solutions à tous les problèmes. Je pense pas, moi non plus, je pense pas du tout. Il n'y a pas de vraie solution aujourd'hui comme ça. Et puis eux, c'est pas leur. Mais juste pour dire, en tout cas, dans l'agenda politique, par rapport ici, notamment, si on regarde, juste pour dire, c'est pas pour dire qu'ils font mieux, hein, et qu'ils sont, ils font. Je suis pas défenseur de ce qu'ils font les Chinois, le gouvernement chinois en tout cas, mais en tout cas, c'est au centre des préoccupations, au quotidiennement. Si je trouve n'importe quel truc, n'importe quelle discussion de politique chinoise, enfin, une grande majorité, c'est là-dessus, c'est ça le sujet. Donc, c'est déjà une chose. Après. Dans les faits, est-ce que ça marche, est-ce que c'est intelligent, est-ce que c'est bien fait, ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux, j'en sais rien. Je suis pas. En plus, personnellement, je suis pas un grand spécialiste de la question. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ça m'intéresse, ça fait 3 ans que j'ai pas été en Chine, et c'est dans ces années aussi que ça a été super important. Mais de ce que j'en ai vu et ce que j'en sais, en tout cas, je sais juste que dans la conscience collective, le fait que produire un truc, ça tue un autre truc, ça, c'est, tout le monde le sait. Hein. C'est genre, y a pas de. Et que le fait que la surproduction, ce soit une. L'aberration écologique, oui, tout comme c'est dans les consciences.
Bah heureusement que vous étiez en France, parce qu'avec le Covid et tout, c'est la même.
Hein. Ouais. J'étais en Chine en fait, mais je suis parti. Quand on était pour le lancement du livre, et puis je suis parti quand c'est vraiment. Bon voilà, en tout cas, merci. C'était un peu long, mais.